Point de Max.
Ok, oui, 10h01, bienvenue dans le Point de Max en ce lundi pluvieux à Québec. C'est 13 degrés actuellement. On parle de faibles averses de pluie et c'est pas mal ce qu'on va avoir tout au long de la semaine, je vous dirais. Ça va se poursuivre entre autres ce soir et cette nuit. Demain mardi, c'est 13 degrés avec 40% de possibilité d'averses. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est pas mal de la pluie jusqu'au week-end où ça devrait rester nuageux. Par contre, pour ce qui est des probabilités d'averses, c'est moins présent. Mais après tout un week-end, encore une fois, on va sentir vraiment dans les prochains jours que l'automne va s'installer sur les routes. Ça semble assez beau. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021. Je vous parlais du week-end. Tellement une belle journée hier du côté du Stade TELUS de l'Université Laval où le Rouge et Or a eu le dessus. 16-6 sur les Carabins de Montréal dans un duel à caractère très, très défensif. Quand ça a commencé avec un revirement d'un bord, un revirement de l'autre bord, tu disais « Oh, ça va être tout un match possiblement offensif ». Finalement, 16-6, ça n'a pas été ça, mais ça a été excitant jusqu'à pas mal la toute fin. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le Rouge et Or s'assure pas mal de terminer au tout premier rang du classement. Va rester à avoir le dessus sur Sherbrooke en fin de semaine. Normalement, ce n'est que formalité, mais ça va se jouer sur le terrain du côté de l'Université de Sherbrooke. Mais le gros défi, c'était en fin de semaine et la défense du Rouge et Or s'est levée avec 4 interceptions face au carrière des Carabins Pepe Gonzalez. Donc, toute une performance. Puis je vous dis que c'était le fun cette journée-là. C'était très cool de vous croiser aussi du côté du tailgate. Et c'est payant cette année d'assister au tailgate, de venir voir la gang de Boulevard. Laurier Québec qui fait gagner une carte carte cadeau de 500$ parmi les auditeurs de Boulevard qui sont venus nous voir à chaque tailgate. Vous êtes nombreux à être passés nous voir hier notamment et nous montrer que vous avez la nouvelle app Boulevard 102 sur votre téléphone mobile. Et aujourd'hui, j'ai une finaliste à nommer et c'est Isabelle Lamar, le grand gagnant de la carte cadeau de 500$ de Laurier Québec qui va être annoncé à la fin de la saison. Pour ce qui est des matchs restants, les séries qui vont s'en venir, le rougeor.ulaval.ca. Je vous invite à faire ça assez rapidement, là, aussitôt que les billets vont être mis en vente pour les séries. Ça va vraiment partir comme des petits pains chauds. Fait que grouillez-vous si vous voulez avoir votre place du côté du Stade TELUS. Puis d'après moi, va rester au moins un tailgate où Boulevard 101 va être présent. Vous passerez nous voir, entre autres, pour déguster de nos délicieux hot dogs qui ont fait fureur encore une fois hier. Et passez voir les animateurs. Il en manquait pas un hier. Certains en alternance, mais tout le monde est au moins passé. Et vous avez eu la chance de rencontrer Gravel, Marceau, Audrey Pinchot qui est passé faire son tour aussi, Jeff Fortin, Véronique Bergeron. Il en manque-tu Pascal CV qui était là pendant un bon moment également. Bien sûr, j'y étais. Colosse est venu faire son tour. Même la voix d'or Dan Caron est passé. Fait que les tailgates Boulevard 101, super, super plaisant. Et même invité de marque hier qui est passé, Sam Hamad qui passait serré des mains du côté du tailgate du Rouge et Or et a fait un petit arrêt à l'attente Boulevard 101. Question de nous saluer. Sam Hamad qui doit pas avoir eu nécessairement un beau réveil ce matin, parce que il y a un nouveau sondage Segma pour le compte de Radio-Canada et du Soleil qui est sorti. Et ce qu'on voit, c'est que Bruno Marchand semble voguer assez aisément vers une réélection. 40% d'intention de vote pour le maire sortant. C'est 24 points d'avance sur le plus proche poursuivant, qui est Stéphane Lachance de Respect Citoyen, qui pour une première fois dépasse Sam Hamad. On est pas mal à égalité statistique, cela dit, là, c'est 16% pour Stéphane Lachance et 14% pour Sam Hamad de Leadership Québec. Claude Villeneuve qui reste pas mal dans ses eaux habituelles, j'ai envie de dire, à 6%. Pour ce qui est de Jackie Smith et Anne Guérette, là, ça reste assez marginal, à 3% et 2% respectivement. Il y a toujours 17% des électeurs sondés qui se disent indécis. Reynald Harvey, qui est président de Segma Recherche, note que M. Marchand domine dans tous les arrondissements. Les écarts sont significatifs dans tous les arrondissements. Il mentionne toutefois qu'à Beauport, la lutte se resserre entre M. Marchand et M. Lachance, donc ça, ce sera à surveiller. À noter que les 750 répondants du sondage ont été contactés du 9 au 16 octobre, donc pas mal pendant la saga impliquant Respect citoyen et Leadership Québec. Et je vais en profiter pour mettre la table immédiatement pour un sujet qui va suivre dans le Point de Max. L'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, qui était à Tout le monde en parle hier pour parler du documentaire qu'il anime « Qui veut encore faire de la politique » qui sera disponible le 25 octobre sur tout.tv. Et M. Labeaume, il a beau dire qu'il aime pas ça jouer à belle-mère puis essaye de se retenir, reste qu'il fait de la chronique sur différentes plateformes. Et des fois, même s'il dit qu'il veut pas en dire trop, il finit par s'échapper un petit peu. Il a été questionné, donc, Régis Labeaume, sur ce qui se passe dans la campagne électorale municipale à Québec présentement, entre autres avec cette saga entre Stéphane Lachance et sa mamade.
Bout de vierge, c'est décourageant. C'est notre capitale nationale. Mais écoute, j'essaie de... Il me reste quelques jours là, à ne pas me parler de sa campagne de Québec. Je vais résister encore, là. J'ai le goût d'exploser devant, quand je vois ce qui se passe, mais gars, la belle-mère va se taire, OK? Mais j'ai le goût, là, tu sais, ça n'a plus de sens, là, tu sais.
Mais je te pose une question.
Il a la chance, habite à Lévis, tu sais, il y a le disco mobile, il veut devenir maire de la ville. Tu sais, on ne sait plus ce qui se passe, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais. C'est, excuse-moi, ça me fait plaisir de le dire.
Okay. OK, mais sans répondre, si je te pose des questions, tu clignes des yeux, est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter?
La même personne qu'il y a 4 ans?
Non, ce serait impossible.
Non, moi, je dis rien. Non, je les aime tous.
Ah oui, OK.
Il faut que je comprenne que je les aime tous.
Oui.
Jusqu'au lendemain des élections.
Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand je mentionne que Régis Labeaume dit qu'il veut pas jouer à belle-mère puis qu'il se garde un droit de réserve puis qu'il reste quelques jours au moins jusqu'à la fin de la campagne électorale jusqu'aux élections pour ne pas donner son avis puis... Mais tu vois qu'ils trouvent ça un petit peu triste, ce qui arrive présentement dans la campagne électorale du côté de Québec. Probablement le fait qu'on ne parle pas vraiment des vrais enjeux. Soit que tout tourne vraiment autour du projet de tramway, soit que, ben carrément, on est dans la guerre entre Sam Hamad et Stéphane Lachance, entre Leadership Québec et Respect citoyen. Et pendant ce temps-là, ben on parle juste de ça. Les médias ne parlent que de ça. Et Régis Labeaume trouve ça un petit peu triste. On va poursuivre dans l'actualité dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, pas le choix d'aller du côté musical de l'actualité parce qu'il y a une belle annonce qui vient tout juste d'être faite. Rush, qui sera au Centre Bell le 2 septembre 2026 pour célébrer ses 50 ans. Gets high on you, and the space he invades, he gets by on you. Rush qui a annoncé il y a quoi 2 semaines une nouvelle tournée avec une nouvelle batteuse. Quelques années en fait après le décès de Neil Peart, ça fait quoi 6 ans? Et il y avait quelques dates d'annoncer. On se demandait, vas-tu en avoir d'autres? Parce que le Centre Bell n'était pas visité à la base. On avait Los Angeles, Fort Worth au Texas, Toronto, Mexico, Chicago, Cleveland et New York. Ça, c'est quand on a annoncé la première partie de la tournée. Et là, dans les dernières minutes, on nous annonce que le 50-something tour de Rush va s'arrêter au Centre Bell le 2 septembre 2026. Pour poursuivre dans l'actualité, on reste dans la veine des sondages. 6 Québécois sur 10 ne veulent pas d'un référendum sur la souveraineté du Québec d'ici 2030. Après répartition des indécis, 65 % des répondants à un nouveau sondage léger Le Journal voteraient contre la souveraineté. Plus d'un répondant sur deux se dit inquiet de la possibilité que le Québec devienne un pays indépendant. Malgré ça, 40 % s'identifient d'abord comme Québécois contre 32 % comme Canadiens. Et c'est une proportion de 26 % qui s'identifient autant Canadiens que Québécois. Ça, c'est une portion de sondage que je trouve intéressante parce que le fait que les Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat, exemple du Parti québécois, ça me surprend pas pantoute. Le fait que l'appui au projet de souveraineté soit autour des 35 %, ça me jette pas en bas de ma chaise, mais pas pantoute non plus. On est à peu près dans ces eaux-là, 35 % depuis des années et des années, puis je m'attendais pas à ce que ça change. Par contre, de parler du fait que il y a plus de Québécois qui se considèrent d'abord comme Québécois que Canadiens, je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est pas nécessairement contradictoire. Je pense que tu peux très bien te dire Québécois sans être pour la souveraineté du Québec, tout comme j'ai pas nécessairement de problème à ce que quelqu'un se dise Canadien tout en étant Québécois. C'est sûr que si tu dis Canadien et tu voterais pour la souveraineté, là, j'ai peut-être plus de questions à te poser, mais j'ai l'impression que côté culturel, il y a bien des Québécois qui peuvent se sentir plus Québécois que Canadiens, mais qu'après ça vont débarquer quand on va parler d'économie, par exemple. Et là, ça va être le travail du Parti québécois si vraiment on veut se lancer dans une campagne référendaire et vers un troisième référendum, d'expliquer à ces Québécois-là, qui pour moi sont assez prenables. Je pense qu'à partir du moment où un Québécois se dit Québécois avant tout, ben il est prenable pour embarquer dans ton projet de souveraineté. Mais il faut que tu y expliques comme il faut qu'est-ce qui va gagner au-delà de ce que ça va apporter au niveau culturel. Parce que si ton plan économique est tout croche, ben, il y a beaucoup de monde qui voudra rien savoir d'embarquer avec toi. Par contre, si ton plan économique se tient, si tu parles d'exploitation de ressources naturelles, ben là, je pense que tu peux aller chercher des gens qui se disent Québécois avant de se dire Canadiens, mais qui présentement sont pas convaincus puis sont pas prêts à embarquer dans ton bateau pour voter oui à un référendum sur la souveraineté du Québec. Puis quand je parle du côté culturel, il y a 67 % des répondants au sondage Léger Le Journal qui admettent que la souveraineté permettrait, selon eux, de mieux protéger la langue et la culture française. Ça me semble excessivement logique. Mais quand tu vas dans les autres aspects, entre autres l'économie, ben il y en a beaucoup qui pensent que ça peut pas vraiment aider. Québec solidaire, pendant ce temps, qui veut utiliser tous les moyens parlementaires à sa portée pour empêcher l'adoption de la Constitution québécoise du gouvernement de François Legault, on accuse le projet de coup d'État législatif. Et Ruba Gazal, donc, invite les autres partis d'opposition à former un front commun pour le bloquer. C'est ce qu'on pouvait lire ce matin là, dans une lettre obtenue par Radio-Canada. Québec solidaire qui prévoit déposer de multiples motions et utiliser tout son temps en commission parlementaire pour faire de l'obstruction pour retarder le vote final. Madame Gazal qui précise qu'à chacun des articles du projet de loi, on va poser des questions en commission parlementaire pour argumenter sur la non-validité et la non-légitimité de la loi. Puis un des problèmes, c'est que on n'a pas beaucoup de temps d'ici à ce qu'on doive se mettre en branle là, en vue des audiences publiques sur le projet de Constitution québécoise. Ça devrait commencer le 2 décembre, puis la date limite pour déposer un mémoire au gouvernement, ben, ça serait établi au 19 novembre, ce qui arrive assez rapidement, c'est dans moins d'un mois. Et bon, QS juge que ce délai-là est trop court et pas réglementaire. Ruba Gazal qui dit « c'est tellement autoritaire, tellement grave, tellement gros ». On ne peut pas laisser passer ça. Le Parti libéral du Québec qui avait comme déjà donné son accord à la CAQ pour aller de l'avant, là, de ce que je comprends, avec les assouplissements que Simon-Jolin Barrette offrait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'à la base, on voulait faire des consultations qui étaient assez limitées pour aller très, très vite. Là, Simon-Jolin Barrette a dit « OK, on va faire un compromis. On va ouvrir un petit peu plus large les consultations. » Puis avec ça, le Parti libéral qui semblait embarquer. Le Parti québécois, c'est moins clair, là. Fait qu'est-ce qu'on pourrait voir une association entre le Parti québécois et Québec solidaire pour faire un front commun face à ce projet de constitution-là? Ça reste à voir à quelques mois à peine des élections. Est-ce que QS et le PQ gagneraient vraiment politiquement à se rapprocher alors que le Parti libéral du Québec, lui, serait prêt à s'approcher un petit peu de la coalition Avenir Québec pour aller de l'avant? C'est quand même des bons questionnements. Les contrôleurs routiers qui seront bientôt autorisés à porter une arme à feu dans le cadre de leur fonction. Ça fait des semaines et des semaines qu'on parle de ça. Je vous rappelle, le tribunal administratif du travail, le printemps passé, qui avait dit aux contrôleurs routiers, « Ouais, le danger d'agression là, pour votre job est trop élevé quand vous faites des interventions. » Ça fait que vous allez rester dans vos petits postes de contrôleurs routiers. Puis ce que ça cause, c'est que c'est un peu le free-for-all. Ou du moins, ça peut être le free-for-all parce que les camions, ben, s'ils décident de pas arrêter au poste des contrôleurs routiers, ben, ils passent, puis le contrôleur routier peut absolument rien faire. Bref, c'était une réclamation qui faisait jaser beaucoup, là. Les contrôleurs routiers qui voulaient une arme à feu dans le cadre de leur fonction pour pouvoir reprendre la route, ressortir de leur poste de contrôle. Et là, ben, Jonathan Julien aurait pris sa décision et ce serait communiqué officiellement dans les prochains jours. Ce sera pas demain matin, là. On donne pas un gun à tous les contrôleurs routiers en disant « Parfait, reprenez la route. » Il va y avoir un tas de formations. On parle de quelques mois au moins. En attendant, il y aurait des genres de patrouilles mixtes avec des policiers et des contrôleurs routiers. Fait que le policier, en étant armé, ben, pourrait épauler le contrôleur routier dans son travail. Puis c'est comme ça qu'on fonctionnerait jusqu'à temps que les contrôleurs routiers aient leur formation et puissent reprendre la route par eux-mêmes en étant armés. La Fédération des médecins spécialistes du Québec qui demande au premier ministre François Legault d'intervenir dans le conflit de travail qui sévit actuellement. C'est une lettre qui a été envoyée samedi à M. Legault, obtenue entre autres par Radio-Canada et la presse. C'est le docteur Vincent Oliva, qui est président du syndicat, qui vraiment déplore là, vivement l'attitude de Christian Dubé dans ce dossier-là, en disant que chacune des tentatives de négociation s'est brisée sur l'entêtement de Christian Dubé et sa volonté de punir les médecins. Selon la Fédération, c'est lui, M. Dubé, qui empêche les partis donc d'en arriver à un accord. La médiation qui a été suspendue, je vous le rappelle, jeudi, le projet de loi 106 qui est sur le changement du mode de rémunération des médecins qui continue d'être un point de fort désaccord. Il y a une nouvelle vague de moyens de pression qui sera à l'ordre du jour d'une assemblée de la FMSQ ce soir. Et d'ailleurs, en raison de la suspension de l'enseignement aux étudiants en médecine, la diplomation d'un millier d'étudiants à peu près serait officiellement retardée aujourd'hui. C'était comme aujourd'hui la date limite là, pour dire « Ouais, ben si l'enseignement est encore suspendu, la diplomation va être retardée. » Et là, donc, ce serait le cas. Dans le Journal de Québec, on nous apprend que les sénateurs dépensent de plus en plus depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015. Les dépenses qui ont grimpé de 40% en passant de moins de 85 millions à 135 millions pour l'année 2024-2025, c'est selon une compilation du Journal de Québec. Le sénateur Éric Forest, qui est directeur du comité des budgets du Sénat, mentionne que si on enlève l'inflation, ben c'est juste 9,2% d'augmentation depuis les 10 dernières années. En parallèle, le journal qui rapporte aussi ce matin que les sénateurs ont facturé 2,6 millions de dollars en 9 ans aux contribuables pour que leurs conjoints et conjointes les accompagnent partout au pays. Quelques exemples dénichés par le bureau d'enquête du journal. 4 733 dollars pour 6 jours à Whistler du côté de la conjointe du sénateur de la Nouvelle-Écosse, Roger Kuzner. Près de 6 000 $ pour que le sénateur de Saskatchewan, Brent Cotter, invite sa compagne, qui ne vit pas avec lui, à le retrouver à Ottawa 3 fois en un mois. 6 000 $. Près de 8 000 $ pour deux voyages linguistiques de 5 jours en Colombie-Britannique pour ce qui est du conjoint de la sénatrice Amina Gerba. Quasiment 8 000 $ pour des voyages linguistiques, pas au Mexique pour apprendre l'espagnol, là. Pas en Allemagne pour apprendre l'allemand. En Colombie-Britannique, là, on parle d'une sénatrice québécoise. Là. Fait que, est-ce que c'est pour aller apprendre l'anglais en Colombie-Britannique? C'est une bonne question. Les sénateurs qui touchent un salaire de base de 184 000 $ avec une rémunération supplémentaire qui peut aller jusqu'à 100 000 $ pour des fonctions supplémentaires. Et malgré ça, 2,6 millions $ en 9 ans chargés aux contribuables pour que les conjoints et conjointes des sénateurs les accompagnent un petit peu partout. Eh bien, environ 7 millions d'Américains qui ont manifesté samedi à travers les États-Unis contre le président Donald Trump. C'est plus de 2 700 rassemblements qui ont eu lieu sous le slogan « No Kings », fait que pas de roi. On dénonce ce que les participants considèrent donc comme une dérive autoritaire. Les marches qui se sont déroulées pacifiquement donc dans de nombreuses villes du pays. Il y a plusieurs figures politiques démocrates là, qui étaient là, entre autres le chef démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le sénateur Bernie Sanders aussi, qui est un nom bien connu. Et en réponse à ça, Trump qui a publié des vidéos sur sa plateforme Truth Social, là, des vidéos d'intelligence artificielle qui le représentaient sous les traits d'un roi, entre autres une vidéo de type Top Gun où Donald Trump est dans un avion et au lieu de tirer des missiles, il passe au-dessus d'une manifestation et il laisse tomber des excréments sous forme de liquide, tiens. Assez particulier. Puis ce matin, avec Marceau, on parlait du fait que, imaginez ça au Québec, okay? François Legault, mettons, qui est critiqué pour quelque chose, puis qui réponde sur les réseaux sociaux avec un montage d'intelligence artificielle où il embarque dans un avion, il passe au-dessus d'une manifestation et il laisse tomber des excréments sous forme liquide. Imaginez que Bruno Marchand, il se fasse critiquer sur un sujet en particulier, prenons exemple le tramway ou une taxe à l'immatriculation ou une taxe au chat, puis qu'il publie sur Facebook une vidéo où on le voit embarquer dans un avion et laisser tomber sur des manifestants des excréments sous forme liquide. Mais vu que c'est Donald Trump, on dirait que c'est comme rendu normal puis qu'on s'en fait pas trop avec ça. Puis ben oui, c'est Trump, c'est le personnage, hey, c'est le président des États-Unis. On va se faire un bon bloc sport avec Coach Gilbert un petit peu plus tard parce qu'il y a du stock en masse. Vous rappelez cette victoire de 16-6 face aux Carabins hier au Stade Télus de l'Université Laval. Le Rouge et Or qui s'assure du premier rang du classement cette année à condition de battre Sherbrooke la fin de semaine prochaine. Arnaud Desjardins qui a quitté le match blessé. Le carrière du Rouge et Or, mais tout indique que c'est rien de trop grave. Fait que bonne nouvelle. Et la défensive du Rouge et Or qui s'est levée avec pas moins de 4 interceptions face aux carrières des Carabins. Pepe Gonzalez au football. Hier soir, le match qui était disputé, c'était entre les Niners de San Francisco et les Falcons d'Atlanta. Les Niners qui ont eu le dessus 20-10. On fera le tour des autres matchs marquants de la journée d'hier avec Coach Gilbert tantôt. Ce soir, deux matchs, 19h. Les Lions de Détroit qui reçoivent les Buccaneers de Washington. Ça risque d'en être tout un. Et assez tard en soirée, 22h, mais Seahawks de Seattle qui reçoivent les Texans de Houston. Les Blue Jays de Toronto qui résistent, victoire de 6-2 hier pour forcer la tenue d'un match numéro 7 dès ce soir, 20h à Toronto. Après une défaite de 4-3 face aux Rangers samedi, une défaite signée Samuel Montembeau, le Canadien qui reprend l'action ce soir face aux Sabres de Buffalo au Centre Bell. Et j'ose croire que c'est Jakub Dobesh qui sera devant le filet. Je ne sais pas si Coach Gilbert va être d'accord avec moi. J'ai hâte d'avoir la discussion. J'espère que non, parce que ça donne toujours un meilleur spectacle. Mais en même temps, on le fakera pas. S'il est d'accord avec moi que c'est Dobesh qui devrait être devant le net, je chialerai pas. Depuis le début de l'année, je dis que c'est lui qui devrait être le numéro 1. Et pour ce qui est des Remparts de Québec, ça va vraiment pas bien ces temps-ci. Défaite de 3-0 et 6-2 en fin de semaine face aux Saguenayens de Chicoutimi. Et là, c'est l'Armada de Blainville-Boisbriand qui sera en ville. Vendredi, c'est une puissance de la LHGMQ. Ça regarde pas bien pour nos Remparts. Et là, ben, il y en a qui demandent la tête du coach Veilleux. Est-ce qu'il va résister encore bien longtemps? Est-ce que les gars vont bien répondre dans les prochains jours? Je lui souhaite parce que sinon, la pression qui va vraiment venir s'accentuer. Dans les prochaines secondes, on revient sur le passage hier à Tout le monde en parle de l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume. 10h27 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021, le numéro pour me rejoindre par texto. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup qui auront envie de réagir dans les prochaines minutes parce qu'on va parler de politique municipale, on va parler de des candidats qui se font assez rares en vue des prochaines élections municipales du 2 novembre. Bon, à Québec, on est assez gâtés, là, on va le dire de même, entre autres avec plusieurs candidats dans la course à la mairie de Québec. Mais il y a bien des endroits dans la province où il y a des gagnants sans opposition qui vont prendre place du côté des mairies. Des différentes municipalités. Et Régis Labeaume, l'ancien maire de Québec, qui anime le documentaire « Qui veut encore faire de la politique » qui sera disponible sur ici-tout.tv le 25 octobre. Hier, il était du côté de Tout le monde en parle pour en parler. J'ai écouté l'entretien. Oui, de l'entendre parler du documentaire en tant que tel, c'est intéressant, mais il y a quand même plusieurs extraits qui ont retenu mon attention et j'ai hâte de vous entendre ou de vous lire plutôt là-dessus au 418-971-1021. Et assez tôt, Régis Labeaume qui a commencé en disant que, à ses yeux, les élus municipaux, ben, c'était les piñatas de la politique. Je rappelle, je vous invite à réagir 418-971-1021 par texto.
Essayez de rencontrer votre élu provincial dans une année, bonne chance.
Fédéral, encore moins.
Fédéral, dans 2 ans, vous ne serez pas capable. Ton élu municipal, tu t'en vas au conseil municipal, tu l'as à 4 mètres de toi, tu peux l'engueuler. Puis comme il est très présent, puis il s'occupe de ses affaires, tu vas le rencontrer à l'épicerie, sur les plateaux sportifs, un peu partout. Alors, la proximité, quand tu fais de la politique, c'est agréable. Moi, j'ai adoré ça. Mais quand ça va mal,
oui. C'est
épouvantable. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a jamais eu autant de démissions que le dernier mandat. Et il y a un moment charnière, c'est la COVID. Le monde est rendu fou. Parle des restaurateurs, les gens ne peuvent plus. Et les politiciens mangent la gratte. Alors, comme le politicien est proche puis est de proximité, c'est lui qui mange la gratte pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Et Régis Labeaume qui a été confronté assez doucement par Jean-Sébastien Girard, qui était le fou du roi hier, il a dit, monsieur Labeaume, vous étiez pas un peu un bouli, vous?
Non, au début, j'étais énervé. Moi, je bougonnais. Puis en même temps, à Québec, on avait Radio Poubelle. Là. Vous vous rappelez pas de ça? Là. C'était un jour à Québec.
On s'en rappelle.
Les gens se souviennent de ce que j'ai dit, mais ils se souviennent pas ce que mes adversaires ont dit puis comment ça se vivait à Québec, la Radio Poubelle.
Ouais.
14 ans de ça, là, je peux dire une affaire, faut être fort.
Mais ça vous manque un peu quand même.
Pas du tout.
L'opinion de Régis Labeaume sur les histoires de Hells Angels, de fidèles religieux qui se présentent, c'est des histoires qui ont été rapportées par le Journal de Québec dans les dernières semaines, des Hells qui se présentent pour devenir élus municipaux dans certaines municipalités, certains même pour être maire. On a vu du côté de la Beauce, là, une gang de fidèles religieux aussi qui tentent d'être élus. Et Régis Labeaume qui a sa petite idée assez claire sur le sujet.
Mais ça, le problème, c'est pas que quelqu'un puisse poser sa candidature. C'est qu'il sent qu'il y a comme une voie pour lui parce que dans le fond, il n'y a pas grand monde qui veut faire le travail. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis le monde le sent que, tu sais, qui va faire, excusez-moi, mais ce maudit job-là payé pour des peanuts, là,
tu sais. Mais est-ce que ces deux Hells Angels-là ou les fidèles du mouvement religieux...
Remarque, ils peuvent garder l'ordre dans la cabane, je ne sais pas. Là,
non, mais est-ce qu'ils ont des chances de gagner?
Dans un quartier, on ne sait pas. Je pense que c'est impossible pour moi, mais qui sait? Peut-être que ce gars-là a des voisins. Tu sais, je ne sais pas, là.
Oui.
Mais juste le fait qu'il pose sa candidature, ça n'a aucun sens.
Et l'armée de Marie, là, au pouvoir, ça serait inquiétant. Ils possèdent beaucoup de propriétés. Ils ont beaucoup d'argent dans cette ville-là.
Ah, mais ils vont se couper le compte de taxes. C'est ça qu'ils vont faire. C'est peut-être ça, dans le fond. C'est pour ça qu'ils se présentent. Ils veulent payer moins de taxes parce qu'ils ont sur l'ensemble de leur propriété.
Pas fou,
dans le fond.
Et cette problématique... Là, du manque de candidature, du manque de bonnes candidatures, parce que c'est un peu ça dont on se rend compte. Là. On parlait des candidats qui ont un passé ou même sont toujours proches des Hells, les histoires de religion, tout ça. Ben, des fois, il y en a des candidats, mais c'est pas des candidats de qualité. Ce sera quoi, selon Régis Labeaume, les conséquences de tout ça pour le citoyen?
Regardez autour de vous, là, dans nos villes, puis est-ce que vous trouvez que... Bon, puis là, je ne veux pas faire offense aux candidats qui se présentent actuellement. Ils ont toute mon estime. Mais éventuellement...
Pas toutes, là. Il y en a une couple.
Ouais, une couple d'exceptions, peut-être, mais bon, on va se calmer là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'éventuellement, la qualité des élus va diminuer. Quand la qualité des élus va diminuer, les mauvaises décisions vont se multiplier. Et quand ça arrive, quelque part, ça apparaît sur le compte de taxes, on va payer pour ça. Alors, tu sais, des belles têtes actuellement, des professionnels, des ingénieurs à retraite aux 63 ans, on n'en veut plus, quasiment, qu'ils se présentent aux élections. Puis c'est le genre de monde dont on a besoin. Hey, pourquoi tu vas te faire emmerder pour que tes enfants se fassent, excuse-moi, blaster ces réseaux sociaux? Que ton cousin ne peut plus te parler parce que tu augmentes les taxes. C'est ça. Puis aujourd'hui, c'est rendu... C'est pire. Ce qu'on a compris dans le documentaire, il y a, oui, les incivilités de l'extérieur, mais les incivilités à l'interne sont rendues quasiment pires que ce qui vient de l'extérieur. Quand c'est rendu à l'interne, que c'est tes collègues travaillent, c'est plus vivable. Puis c'est ça qui se passe et beaucoup, à beaucoup, beaucoup de place.
Et pendant ce temps-là, campagne municipale à Québec, ça se tire de la boîte entre Stéphane Lachance de Respect Citoyen et Sam Hamad de Leadership Québec. On dit « Lui m'a offert un poste pour que je me retire. » On répond « C'est lui qui m'a offert un poste pour que je me retire. » Qu'est-ce qu'en pense que juste la bombe qui dit qu'il veut pas jouer à belle-mère? On va se le dire, là. Il y a bien de la misère à se retenir.
Bouse vierge, c'est décourageant. C'est notre capitale nationale. Mais écoute, j'essaie de... Il me reste quelques jours là, à pas me parler de sa campagne de Québec. Je vais résister encore. Là. J'ai le goût d'exploser devant, quand je vois ce qui se passe. Mais gars, la belle-mère va se taire, OK? Mais j'ai le goût, là, ça n'a plus de sens. Là,
mais je te pose une question.
La chance habite à Lévis. Il y a le disco mobile, il veut devenir maire de la ville. On ne sait plus ce qui se passe. Ça n'a plus de bon sens. Là, excuse-moi, ça me fait plaisir de le dire.
OK, mais sans répondre, si je te pose des questions, tu clignes des yeux, est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter?
Oui.
La même personne qu'il y a 4 ans?
Non, ça serait impossible.
Non, moi, je dis rien. Je les aime tous.
Ah oui, OK.
Il faut se comprendre que je les aime tous.
Oui.
Jusqu'au lendemain des élections.
Donc, Régis Labeaume, l'ancien maire de Québec, qui était à Tout le monde en parle hier, il anime le documentaire « Qui veut encore faire de la politique » disponible sur ici-tout.tv le 25 octobre. On l'entendait dans les dernières secondes commenter, sans trop le faire, ce qui se passe à Québec présentement. Je vous rappelle les derniers chapitres de cette histoire entre Sam Hamad et Stéphane Lachance, vendredi matin. Leadership Québec et Sam Hamad qui sont sortis en disant à la gang de Stéphane Lachance, « Hey, s'il existe en effet des vidéos, de l'audio, de la rencontre, puis que vous dites qu'on vous a offert quelque chose, mais que vous avez rien fait d'illégal, ou que... bref, sortez la vidéo. » Et ce matin, Sam Hamad, qui était devant les journalistes pour une annonce, selon lui, n'a pas de vidéo vraiment, là. C'est ce qu'on comprend.
Je suis surpris d'avoir une copie d'enregistrement quelque part. C'est la... OK. Merci beaucoup. Bonne journée.
Il n'a pas voulu commenter beaucoup. C'est ce qu'on comprend, là, la gang de Stéphane Lachance, Respect Citoyen, qui aurait fait une plainte, là. On fait une plainte au directeur général des élections. Fait qu'à partir de là, c'est judiciarisé. On comprend que Sam Hamad ne veut pas trop s'avancer. Sam Hamad qui s'est amusé aux dépens des journalistes aussi ce matin.
On a un bon programme. On a des messages à envoyer. On continue de les envoyer. Notre défi, là, que les citoyens nous entendent. Et évidemment, on fait une annonce pour le vétéran, bien, la couverture est bonne, mais elle pourrait être meilleure. Et on fait des bonnes annonces, mais on fait des annonces répétées, on en parle pendant longtemps, puis on fait une annonce qui touche 6 000 personnes à Québec qui ont subi des éléments importants. Puis, bien... Nous, on va continuer à répéter, on continue à faire nos annonces, puis on souhaite que les citoyens nous entendent.
Par rapport aux résultats de sondage de ce matin, dans lesquels, via c'est Radio-Canada et Le Soleil qui nous donne les résultats d'un sondage Segma, Sam Hamad semble pas trop s'inquiéter. Lui, ce qu'il dit, c'est que tout va se passer dans les 2 prochaines semaines.
Les deux dernières semaines dans une élection, c'est là que ça se passe. Mois d'avril, mois de mai, là, pensez... Moi, le monde, mois d'avril, mois de mai, il y en a qui me demandaient s'il y avait une élection. Ils ne savaient pas. C'est pas... C'est... Les gens, ils ont d'autres choses à faire. Vous autres, vous êtes là-dedans, là, mais eux, là, sont dans leur vie. Puis là, là, ils savent que l'élection s'en vient. Il reste deux semaines. Deux semaines, c'est là que ça se décide. Je vous le dis.
Merci au collègue Mathias Turcotte qui était sur la route ce matin pour recueillir les propos de Sam Ahmad. Dans les prochaines minutes, dans le Point de Max, on jase sport avec Coach Gilbert. Toute une journée de fou, encore une fois, dans la NFL hier. Toute une soirée de sport ce soir. Le Canadien en action, les Blue Jays de Toronto en match numéro 7. Deux gros matchs de football. Et pour ce qui est du Canadien... Là, Samuel Montembeau, est-ce que tranquillement, pas vite, sa place de numéro 1 officiel est en train de lui glisser entre les doigts? Est-ce que c'est Sam Montembeau qui sera en action ce soir face au Sabre? Ou bien si Jakub Dobesch sera lancé dans la mêlée? C'est entre autres une question qu'on va se poser. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.
102-1.
10h45 dans le Point de Max à Boulevard sur les routes. Tout a l'air beau. Si c'est pas vrai, 88-971-102 pour me donner les informations. Les infos que je peux vous donner avec pas mal de certitude, c'est qu'il fait pas beau dehors à Québec. C'est 13 degrés actuellement avec de la pluie. Puis c'est pas mal ça qu'on va avoir toute la semaine, de la pluie. La bonne nouvelle, c'est que ce soir... C'est un genre de soirée de pluie où tu t'assois devant ta TV, puis ton ordi, puis ton iPad, puis tout en même temps, parce que t'as bien des affaires à regarder dans le monde du sport. Et pour en jaser, Coach Gilbert est en studio. Salut, Coach.
C'est comme Noël avant le temps.
Ce soir, là, avec le Canadien qui joue contre les Sabres,
oui.
Puis le Canadien qui est excitant cette année,
oui.
Avec les Blue Jays en match numéro 7 face à Seattle, c'est après que... avoir forcé la tenue de ce match ultime-là. Deux Monday Night Football. Bon,
mais pas en même temps. Ouais. Un à 7 puis un à 10.
À 10, je vais malheureusement être couché, là, puis je vais manquer mes Seahawks, que tu me tiendras au courant.
Je t'ai dit au courant.
Mais,
je t'appelle demain matin à 4 heures.
Ben, parfait. Okay. Ça, Quelle belle période pour le sport.
Hein? Le mois d'octobre est un des plus beaux mois. En plus, tu sais, hier, il y avait énormément de football. Il y avait du hockey, il y avait de la F1. Il y avait... Écoute, c'était cœur.
On va commencer avec le football. Quelques matchs qui ont retenu l'attention. Bon, je vous ai parlé déjà pas mal de la victoire du Rouge et Or face au Carabin 16-6. Ça, oui. C'est ici à Québec. Dans la NFL. Je veux commencer avec les Broncos de Denver.
Quel match.
Qui perdait, c'était quoi, 19-0 après trois quarts. Les Broncos ont scoré 33 points au quatrième quart.
Oui. En fait, ils tiraient pas de l'arrêt 26-8.
À un certain point, c'était oui. Ça. Puis jusqu'à la fin, à un moment donné, tu te dis, bon, ben les Giants ont réussi à quand même garder la tête hors de l'eau. Puis là, ils ratent leur beauté de conversion d'un point sur leur dernier touché. Ce qui fait que les Broncos... sont allés chercher la victoire sur un botté de placement de 3 points.
Exact.
Si tu réussis 16 points-là, dans le pire des cas, tu allais en prolongation.
Il en a raté deux.
En plus, c'est vrai.
Il a raté deux points d'extra, ce qui fait en sorte qu'il n'y en a pas de prolongation.
À la base, en effet.
Ça a l'air si anodin, mais ce match-là est perdu en partie à cause de ce botté-là.
100%.
Au-delà de ça, c'est la première fois en 1602 matchs qu'une équipe qui mène avec plus de 18 points avec 6 minutes à faire perd.
Wow!
Il reste 6 minutes, tu mènes par 18, puis tu perds. Ça fait 1602 matchs. C'est extraordinaire ce qui s'est passé hier. Écoute, les Giants l'ont simplement échappé. On va se dire jeune équipe en apprentissage, mais c'est les Broncos l'ont fait sur un botté à 1 seconde de 39 verges. Quel match de football. C'est la beauté du football. C'est jamais fini. T'sais, il reste 6 minutes au hockey, c'est 5 à 1. C'est fini.
Oui.
On s'entend. Puis, tu sais, autant j'aime le hockey, autant pour moi, le foot au niveau télévision, à part que c'est le Canadien, là, j'ai beaucoup plus excité à écouter
ben
du foot comme ça.
Les Colts d'Indianapolis.
La meilleure attaque de la Ligue.
6
Let's
et
go.
1. Victoire de 38-24 sur les Chargers de Los Angeles hier. Daniel Jones, qu'on appelle Indiana Jones avec les Colts. Sont-tu for real? Sont-tu pour vrai après ces games?
Ben écoute, j'imagine que oui. Tu sais, quand l'équipe de la NFL qui a la meilleure production avec une moyenne de 32,3 matchs par match, écoute, Moi, pour moi, c'est clair que t'es une bonne équipe de la NFL pour produire autant que ça. Au-delà de ça, avec un running back de Jonathan Taylor qui a 3 touchés encore hier, c'est une équipe qui est vraiment, je pense, en place. Qui est... C'est pas un feu de paille. Je pense pas que c'est un bon début de saison. J'ose espérer que ça va toffer. Puis tu sais, l'année passée aussi, on avait eu des beaux flashs là, des Colts. Je pense que les Colts sont là pour jouer. Là.
Et rapidement, tu voulais me parler des Chiefs aussi. Début de saison, so-so. Là, victoire de 31-0 face aux Raiders. Oui, c'est les Raiders, mais c'est quand même une rince pas pire.
Hey, 10 victoires dans les 11 derniers matchs contre les Raiders, c'est quand même exceptionnel. Les Raiders qui ont fait que 96 verges de gain dans un match complet avec la défensive des Chiefs, c'est vraiment là. De mémoire, troisième jeu blanc des Chiefs cette année?
Ça se peut.
Tu sais, ça commence à être du sérieux, là, cette équipe qui enfin s'est relevée parce que clairement, ça a été très difficile comme début de saison.
Ce soir, rapidement, entre les Bucks et les Lions, qui gagne ça, moi, je mets mon...
Tant qu'à moi, c'est un des plus beaux matchs de la semaine. Là. Moi, je suis à Lions all the way.
Ouais, moi aussi.
Je pense que les Lions vont réussir, qu'ils vont continuer sur leur bon élan. Quoique, vraiment, je pense vraiment que les Buccaneers, cette année aussi, ont une excellente saison.
Puis Baker est tellement un soldat, un guerrier, qui va toujours se battre pour aller chercher la petite verge qu'il faut.
Oui, tout à fait. Fait que je pense qu'on va avoir un bon match. C'est le fun, il est à 7h. Fait que ça va être bon pour voir la fin de celui-là.
Ben oui.
Puis, tu sais, il faut souligner aussi encore les Pats pour les fans de Québec qui aiment les Pats, qui sont rendus maintenant avec 5 victoires, 2 défaites. Drake May fait vraiment, vraiment une belle
job. Ils l'ont trouvé.
C'est son sixième match de la saison avec plus de 200 verges de gain.
Ça n'a pas marché avec Mac Jones. Ils en ont trouvé un autre assez rapidement.
Oui, vraiment. Puis je pense que ça pourrait être un quarterback de concession pour les prochaines années. Vraiment, je suis content pour eux autres parce qu'il y a beaucoup de fans à Québec puis ça met de l'action. C'était le fun de voir se faire démolir 2-3 ans. Maintenant, mettez-nous de l'action un peu là-dedans.
Canadiens Sabres ce soir, les Sabres de Buffalo, après un pitoyable début de saison qui se sont bien repris quand même dans les derniers matchs. Le CH n'a pas connu un mauvais match nécessairement samedi, mais Sam Montembeau l'a échappé.
Ben, Sam Montembeau n'a pas un bon début de saison, là, disons, faut se le dire. Puis, on en a parlé beaucoup l'an passé. Moi, je trouve qu'il a fait un job super honnête, Canadien au footballier qui l'ont ramassé au ballottage. Ceci dit, cette année, c'est très difficile.
C'est ça le mot à côté de Samuel Montembeau, c'est honnête. Le gars, dans son rôle dans lequel il a été placé dans les dernières années, d'être un genre de gardien, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Montembeau a été très, très, très honnête dans son travail.
Ouais, sauf que un pourcentage d'efficacité de 818, c'est pas suffisant dans la Ligue nationale.
Puis il donne un mauvais but au moins par match et ça, c'est inacceptable.
Ben, il est à 857 cette année, c'est pas normal. L'année passée, si je me trompe pas, il frôlait les 91% d'efficacité, quelque chose comme ça. Là, on est rendu dans le 80 en bas. Là. Fait que c'est vraiment problématique. Ceci dit, on peut pas... Le début de saison est quand même important. Là. On s'entend, les points qu'on ramasse là, on va en avoir besoin à la fin de l'année. Là. Le Canadien ne rentrera probablement pas en série avec 15 points d'avance. Là. Fait qu'il faut pas trop niaiser puis laisser, je pense, la place. Pendant que Dobesh a, lui, une efficacité au-delà de 94%, là, faut arrêter de niaiser. Puis tant qu'à moi, c'est lui qui sera dans les goals ce soir.
Au-delà des chiffres, Dobesh, là, je regardais le dernier match qu'il a gaulé.
Oui.
J'imagine même pas les joueurs, parce que juste moi, devant ma TV, je suis plus safe. Il y a plus de prestance devant son net. Puis même si c'est pas toujours chic, puis que des fois, son positionnement, c'est quoi que je pense qu'il s'est beaucoup amélioré là-dessus, là, je file plus en sécurité avec Dobesh dans le net. Fait que je pense que les joueurs aussi, puis ça paraît une façon de jouer.
Je pense que c'était pas le cas, mais je pense que ça pourrait le devenir. Tu sais, rappelle-toi, je pense que c'est le troisième but des Rangers.
Le mauvais but, ça?
C'est le troisième. Si je ne me trompe pas, rentré par l'aile droite, puis tout de suite après à bleu, un lancé avec personne en avant de lui. Ça aurait dû être un lancé excessivement facile à arrêter.
Là, il dit que ça a curvé, puis qu'il n'a jamais vu un shot curvé de même. Ouais. C'est un gars qui n'est pas en confiance.
Bien, clairement. Je veux dire, ce genre de shot-là, il doit te rebondir. Tu aurais dû être devant. Ceci dit, c'est un mauvais but. Il faut être capable de se dire. C'est tout simplement un mauvais but. Mais ça a joué la confiance. Le lancé de Panarin, après, lui...
C'est un bon tir.
Ça, c'est un très, très, très bon lancer, là, mais le troisième n'aurait jamais dû lancer. Fait que là, comme tu dis, là, on a un risque que les joueurs se mettent à être un petit peu ses talons dans la zone si jamais ça continue comme ça. Fait que tant qu'à moi, ramassons Dobesh au plus sacré. Puis on a un match cette semaine, je crois, c'est lundi, mercredi, samedi. Donc, on s'en va dans l'Ouest après ce soir, c'est ça. On s'en va à Calgary, je pense, mercredi soir. Donc, ça va être plus difficile dans l'Ouest. Il va falloir qu'ils se partagent le travail. Fait que moi, je mettrais Dobesh pour... T'sais, je voudrais pas m'en aller là-bas avec 2 défaites. Là.
Et ce soir, ce sont les Sabres qu'on affronte. 8-4 leur victoire mercredi passé face aux sénateurs d'Ottawa. Ils ont battu les Panthers de la Floride 3-0 samedi. Je comprends que les Panthers sont éclopés, pas à peu près, mais quand même.
Ils restent quand même une bonne équipe.
C'est un bon défi, les Sabres, mine de rien, ce soir.
Ils ont quand même un difficile début de saison. Là. Ils ont un match avec 8 buts, mais avant ça, ils ont eu beaucoup de misère à marquer. Là. Fait que ça reste une équipe qui est très fragile. Par contre, qui là, en ce moment, a une petite raison de se bomber le torse puis d'arriver puis avoir un semblant de confiance. Mmh. Moi, je pense qu'il faudrait, dans le meilleur des mondes, les remettre à leur place assez vite, un peu comme c'est passé contre les Rangers. Là, si on était capable d'en planter deux en première, ça serait une bonne chose. Puis là, il faut que le Canadien revire ça aussi. Puis, tu sais, d'arrêter de courir après une victoire. Là. Parce que là, on a couru, on a failli rattraper. Hein. Ça finit 4-3, puis on a mis quand même beaucoup de pression, puis ça a passé proche. Les trois matchs d'avant, ça s'est fini en dedans de deux minutes aussi, que ce soit à Chicago, que ce soit contre. C'était qui le
Kraken.
Le Kraken de Seattle. Tu sais, c'est arrivé un peu trop souvent dans les derniers matchs. Fait que clairement, là, ça serait le fun de jouer, mais d'être capable de garder l'avance. Parce que là, on a eu une avance de deux matchs qu'on n'a pas été. De deux points, pardon, qu'on n'a pas été capable de garder.
En terminant, pas le choix de garder quelques secondes pour les Blue Jays de Toronto qui, ce soir...
Septième match.
Match numéro 7. Puis les Jays, quand ils ont gagné dans cette série-là, ils ont gagné en majuscule.
On est
d'accord. On est allé...
À grand coup de circuit.
Exact.
Avec Vlad, je pense qu'il est rendu à 6 en série. C'est quand même exceptionnel. Là.
On s'attend à quoi ce soir? Est-ce qu'on est confiant?
Ben moi, je suis confiant. C'est à Toronto. La foule va être derrière eux. Les gars vont. Tu sais, les Blue Jays, hier, avec leur victoire, je pense que les gars sont crinqués. Ils se sont sortis de deux situations difficiles. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Je pense à la fin de la quatrième et de la cinquième.
Les buts étaient pleins,
pas
mal.
Les buts étaient remplis. Ça s'est fini deux fois avec des doubles jeux. Ça pompe. Ça montre que c'est un. Puis au-delà de
le match pouvait virer là de bout en bout. Puis ce matin, on parle de l'élimination. Des Jays.
Parce que rappelle-toi, c'est ça qui est arrivé samedi soir. Là. En fin de huitième manche à Seattle, vendredi soir, pardon, ça a été un grand chelem qui c'était 2-2 puis c'est fini 6-2 à cause d'une situation comme ça qui a mal viré. Là, on s'est sorti deux fois de ça hier. Fait que je pense que les gars sont très motivés. Au-delà de ça, ça a été quand même un bon match au Monticule, outre ces deux petites manches-là. Tout le monde participe au bâton. Tu sais, des fois, dans une équipe, tu dis, tu as 3-4 frappeurs, tu les surveilles, puis quand c'est à eux autres, mais tout le monde peut frapper avec les Blue Jays. Fait que je pense que si tout le monde se présente ce soir, je pense que ça devrait bien aller. Puis écoute, ça va être juste de voir l'ambiance à Toronto d'un septième match. Ça va être bien plein. Ça va être vraiment extraordinaire. À suivre.
Coach Gilbert, merci beaucoup. Go Jays, go!
Yes, sir!
Au retour, Audrey Pinchot est là avec l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. 11h04 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. On jase sport avec coach Gilbert dans les dernières minutes et on mentionnait qu'on enverrait, si on était Martin Saint-Louis, Jakub Dobysh dans la mêlée ce soir face aux Sabres de Buffalo. Et ça a été pas mal confirmé dans les dernières minutes. C'est Jakub Dobysh qui obtiendra le départ pour le Canadien. C'est donc dire que Samuel Montembeau n'obtient pas le départ. Et ça fait deux fois dans les derniers jours que Montembeau n'obtient pas un départ qu'on pensait au début de l'année qu'on allait y donner parce que le plan, ça semblait être Montembeau est notre vrai numéro un et Jakub Dobysh va voir de l'action dans les deux matchs en deux soirs. Là, ça fait deux fois que dans des matchs qui ne sont pas des deux matchs en deux soirs, que c'est Dobysh le partant et que Montembeau va agir à titre d'auxiliaire. Les statistiques qui parlent là, pour ce qui est de Montembeau, c'est 857 de taux d'efficacité depuis le début de la saison. C'est absolument atroce. Alors que pour Jakub Dobysh, c'est 940. On n'est pas dans le même monde, mais pas du tout. Fait que bien content que Martin Saint-Louis prenne cette excellente décision à mon bien humble avis. Hey, mercredi, ça s'en vient vite dans 48 heures, Boulevard 102.1 qui célèbre ses 10 ans. C'est en 2015 que Leclerc Communication lançait une nouvelle radio dans le marché 100% conçue à Québec par et pour les gens de Québec. Et mercredi, 22 octobre, dès 17h, manque pas l'événement 10 ans de Boulevard au Malte Commode. Lancement de la bière La Gravelle, émission spéciale en direct de Gravelle dans le retour et l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro qui souligne 20 ans de carrière. Musique live avec Big Muff et un paquet de surprises. C'est ouvert à tous. L'entrée qui est gratuite, fait que viens passer une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard 102.1. On t'attend le 22 octobre dès 17h au Malte Commode. C'est au Promenade Beauport. Audrey Pinchot, t'as-tu hâte?
J'ai hâte en mots, t'as dit.
T'as travaillé fort pour cette soirée-là, hein?
Oui, puis je suis loin d'être toute seule. Je peux pas prendre, tout le mérite sur celle-là. On a une grosse équipe à Boulevard 102.1 en ce moment qui... c'est une fourmilière. On est une couple à travailler sur différentes affaires. On a tous nos petites missions. Puis le but, c'est que vous passiez une belle soirée. Qu'on fasse passer une belle soirée à Denis et Véro qui vont souligner leurs 20 ans de carrière commun.
Faut-tu s'habiller beau?
Ben, c'est un Radio Hall of Fame. Je vous demande pas, les auditeurs, d'arriver là en robe de soirée, là, mais tu sais, on n'arrive pas en coton ouaté, mettons. Je pense que casual chic, c'est pas mal la meilleure façon de le dire. Là,
la question n'était pas pour les auditeurs en passant, là, c'était vraiment juste pour moi.
Ben pour toi et pour tous, là, c'est même dress code pour tout le monde.
Pas de coton ouaté.
Idéalement, Max. Okay. Ils sont beaux, tes cotons ouatés.
Je sais, je mets quasiment rien que ça.
Tu peux sortir une petite chemise, là, ou un petit...
Fait que pas nécessairement mon kit de Noël que je mets Noëls parce que c'est mon seul kit, mais la chemise.
Oui, quelque chose de casual, là, je veux dire, et du bon sens, là, c'est présentable.
Je vais être très présentable. Venez nous voir mercredi dès 17h au Malcoma du côté des promenades. Beauport, c'est l'heure de l'open mic. Audrey, oui. De quoi on jase aujourd'hui?
C'est spécial parce que on est dans une ère où, sur les réseaux sociaux, on voit toutes sortes d'affaires. Puis, en me promenant dans les derniers mois, tu sais, c'est pas nouveau que je parle, que moi, je suis rendue dans une période de ma vie où éventuellement, je veux des enfants. Fait que, tu suis ce qui t'intéresse, c'est Internet. Fait que je suis des affaires reliées, des fois, au modèle parental. Puis, il y a comme une montée fulgurante de ce qu'on appelle le gentle parenting, la parentalité bienveillante. Et là, 88-971-1021, parce que je pense que dans notre auditoire, il y a personne ou peu de personnes qui ont été élevées dans le gentle parenting parce que c'est relativement, je dirais pas nouveau comme concept, là, mais je vais dire que ça prend de plus en plus de place au niveau de la dernière génération qui a des enfants en ce moment.
Qui crée des enfants rois, là.
Bien, ça, c'est drôle que tu t'en ailles là parce que c'est exactement de ça que je veux qu'on parle ce matin, tous les préjugés qu'on a envers la parentalité bienveillante parce que dans les faits, là, il y a rien de mauvais à la parentalité bienveillante. C'est le fait... d'aller dans une explication plutôt que la punition. C'est le fait d'être dans la coopération avec son enfant au lieu d'être seulement autoritaire. C'est d'être centré un peu plus sur l'écoute, le respect de l'enfant. C'est toutes des affaires qu'on veut de base avec nos enfants. Il n'y a personne qui veut créer une dictature à la maison nécessairement, on s'entend. Là. Mais ça m'amène à me questionner sur quel genre de parent je veux être. Parce que je sais pas toi, mais moi, c'était strict chez nous. Là.
Ah, moi aussi, j'avais intérêt quand même à marcher de rapide.
Ben oui, il y avait des règles, puis il y avait des conséquences, puis des punitions à mes actes ici. Je marchais pas dans ces règles-là. Puis en tout cas, je pense que je m'en sors pas pire. Je suis pas traumatisée. Là, vais bien.
Puis tu sais, j'ai été très gâté comme kid. Puis ça, tu t'en rends compte peut-être des fois plus tard. J'ai été gâté. Mais j'ai appris aussi qu'il y avait des conséquences quand j'agissais pas comme je devais agir.
Puis peut-être de là notre principe puis notre préjugé sur les enfants rois. Ouais. On a comme l'impression que ces gens-là qui sont élevés dans une parentalité trop bienveillante, ben tout leur est dû. Ils ont pas connaissance de ça, les règles, puis le cadre, puis le fait qu'ils vont se faire dire non dans la vie plus souvent qu'autrement.
Ah, c'est comme au hockey, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que le coaching punitif, ça a plus sa place. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si tu as une mauvaise performance, ben c'est normal qu'à la pratique d'après, il n'y aille pas de rondelles, puis tu patines, tu te fasses rien que ça patiner, puis tu souffres jusqu'à en vomir dans une poubelle. Moi, c'est cette vision-là que j'ai. Fait qu'on
parce
peut
que
faire
tu es élevé là-dedans, tu sais.
Peut-être, oui.
Puis c'est du coup, je suis pas en désaccord pantoute avec toi, mais cette approche-là de parentalité bienveillante, ça s'inscrit dans un contexte où les parents veulent éviter justement les méthodes peut-être un peu plus traditionnelles. Et pour vous donner une idée, c'est 38 % des parents, au moment où on se parle, de la dernière génération qui font des enfants en ce moment, là, qui utilisent le fameux « gentle parenting ».
Fait que 4 sur 10, à peu près.
Oui. Puis là, je réfléchis à ça parce que je t'amène où on s'en va avec l'open mic ce matin. Il y a quelques semaines, je suis allée manger avec Sam Tremblay-Michaud. Vous le connaissez bien, c'est notre chroniqueur automobile dans Gravel en retour. Il va faire son tour des fois dans Marceau le soir. Sam est pour RPM. Vous y voyez à Binette là, dans Nouvelle Saison sur Crave. Puis Sam a décidé d'envoyer son petit gars dans une école Montessori. Et si vous connaissez le moindrement ce modèle-là, vous faites le lien avec la parentalité bienveillante. Et on a un paquet, mais un char, une barge de préjugés par rapport aux écoles Montessori.
L'open mic. Just in time for open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est les écoles Montessori, quoique ça m'épaterait parce que ça existe quand même depuis littéralement des centaines d'années. Là.
Pour vrai, j'ai pas mal aucune idée.
Pour vrai de vrai?
Pour okay, vrai de
regarde,
vrai.
Je t'explique, ça vaut la peine. Les écoles Montessori, puis là, écoute, j'ai fait des recherches parce que je n'ai pas d'enfants et je n'ai jamais côtoyé des enseignants ou un modèle Montessori, mais tu as des garderies Montessori, tu as des écoles primaires Montessori. Montessori, en fait, c'est une femme à la base, Maria Montessori, qui est née en août 1870, okay, en Italie. Elle, elle s'est intéressée notamment à l'éducation des enfants en difficulté. Fait que c'est parti de là. Puis en 1907, elle a ouvert la première Casa dei Bambini, en italien, en gros, ça veut dire maison des enfants, là, dans un quartier à Rome. Puis elle s'est intéressée à la tranche d'âge 3 à 6 ans, puis elle s'est mise à regarder au niveau de l'autonomie, le fait de faire différent, ce que ça pouvait amener à un enfant. Et donc, c'est un modèle éducatif Montessori qui est comme compatible un peu avec le type de parentalité bienveillante dans la mesure où c'est un respect de l'enfant, de son autonomie, de son rythme personnel aussi. Dans le cadre éducatif qu'on a au Québec, dans le système d'éducation, je veux dire, on suit toutes les mêmes années, le même programme, les mêmes bébelles, puis il faut que tu avances au même rythme, sinon tu prends du retard puis tu doubles, tu sais. Tandis que de ce que je comprends, puis encore une fois, là, c'est Internet qui m'a aidé, de ce que je comprends, c'est que le modèle Montessori, c'est vraiment fait pour aller à ton rythme comme enfant. Mais ça amène plein de questions, tu sais.
Je pars avec beaucoup de jugements.
Ben, j'ai plein de préjugés aussi parce que je me dis comment ton enfant s'adapte en société après ça. Parce que la réalité, c'est que dans un cadre de travail, ça va pas à ton rythme. Faut que tu
avances.
Exactement. Faut que tu fites dans un cadre. Mais j'étais quand même curieuse parce que un de mes meilleurs chums de gars envoie son kid là. Fait que ça doit pas être si cave comme modèle, tu comprends? Sam.
Allô?
Bon matin!
Allô, oui! Ben oui! Là, c'est drôle parce que tu parles de gentle parenting.
Oui!
Puis je trouve que la liaison peut se faire rapidement avec Montessori, mais je pense qu'il n'y a vraiment aucune mesure de comparaison entre les deux.
Ah ouais?
Dans le sens que Montessori, puis de la mère que je le comprends aussi, parce que vous comprendrez que je suis un parent, je ne suis pas un spécialiste de Montessori non plus, mais de la manière que ça fonctionne, puis l'idée derrière ça, c'est que c'est une philosophie. L'idée, c'est de te dire, tu sais, quand tu parlais de garderie Montessori, tu parlais de d'autres genres d'établissements là, qui sont comme ça. Faut toujours que tu te dises que Montessori, en réalité, c'est une formation que tu vas chercher. C'est une formation qui se donne en Europe ou aux États-Unis également. C'est des enseignants qui font leur bac, qui vont chercher un peu comme une maîtrise ensuite pour aller plus loin dans leur technique d'éducation. Pour avoir, exemple, une garderie Montessori, t'es pas nécessairement obligé d'avoir le papier qui vient avec. Tu peux dire que tu adhères à la philosophie derrière. Il y a vraiment une grosse différence, puis je pense que c'est là que beaucoup de préjugés viennent entre c'est quoi exactement appliquer le Montessori puis c'est quoi assumer la philosophie derrière. Quand tu l'appliques, puis quand tu es dans un milieu qui est Montessori, puis pour tout de suite enlever des grosses couches de préjugés, ces enfants-là font exactement les mêmes examens du ministère. Là. Au primaire, ces enfants-là, d'ailleurs, il n'y a pas de secondaire, on fait que le primaire Montessori au Québec, doivent faire exactement les mêmes tests que vous et moi, on a fait. Là,
au même âge. Là, pas,
au même âge.
Tu fais pas lui de troisième année en cinquième.
Au même âge, au même moment, puis si tu passes pas, tu vas pas plus loin, dans le sens qu'il faut que tu passes tes examens quand même.
Okay.
L'idée derrière ça, c'est que l'apprentissage n'est pas stoppé. T'sais, Audrey, tu disais, nous autres, il faut suivre le rythme à l'école. Si tu le suis pas, tu vas doubler.
Ouais.
Dans l'idée de Montessori, c'est pas de te dire que si tu le suis pas, tu vas réussir à passer. C'est pas ça du tout. Il faut que tu atteignes au minimum les objectifs qui sont demandés par le cadre scolaire québécois. Mais si tu veux aller plus loin, on va te permettre de le faire. Et là, je pense qu'elle a vraiment la grande distinction entre l'école plus régulière et l'école que tu vas avoir Montessori. C'est que c'est un style d'éducation qui va permettre à des enfants qui, exemple, ont développé une habilité en mathématiques, d'apprendre des choses qu'ils auraient probablement appris au secondaire. Mais s'ils sont capables et qu'ils ont envie d'aller plus loin par leur autonomie d'apprentissage, par leur méthode de compréhension, bien, on va les encourager à aller simplement plus loin. On va pas les barrer.
Fait que moi, mettons, petite fille qui savait lire et écrire quand je suis rentrée au primaire. Il faut savoir que ma mère avait une garderie puis ouais. Bon, elle m'a appris un peu plus jeune. Puis ça veut dire que si j'avais été dans un modèle Montessori, on m'aurait appris probablement des niveaux supérieurs parce que je t'ai rendu là puis on m'aurait pas stoppé, si on veut, dans...
Oui.
Mon apprentissage.
Sans dire qu'il y a un professeur à l'avant avec un tableau, parce que c'est pas ça, Montessori. T'sais, les classes sont vraiment faites différemment. Tout est accessible pour les enfants. D'ailleurs, les classes de préscolaire, tous les éléments sont à la hauteur d'un enfant de préscolaire. Donc, l'enfant se promène, les toilettes, les lavabos, tout est à la hauteur de l'enfant. Fait que l'enfant est capable de se promener dans son environnement et de faire lui-même des choses qu'il n'a pas besoin de demander à un adulte d'avoir de l'aide. Parce qu'on va se le dire, on vit dans un monde pour les adultes, on vit pas dans un monde pour les enfants. Mais de laisser un enfant avoir la possibilité de lui-même découvrir son milieu, lieu de lui-même apprendre à développer son autonomie. C'est pas de dire qu'il n'y aura pas de conséquences s'il roule 150 dans une voie de 50. Là. C'est pas de dire qu'il se fera jamais taper ses doigts non plus s'il fait pas quelque chose de correctement. C'est de dire, ben, on te donne toutes les chances de, si tu veux le pousser, tu vas pouvoir le faire.
Tu as les outils.
Fait que, tu sais, pour prendre ton exemple de lecture, probablement que, puis là, je te dis ça encore une fois, je suis un parent, je suis quelqu'un qui s'informe aussi au même niveau que les parents qui regardent ça, mais probablement que l'enseignant aurait donné des outils de lecture, t'aurait donné des livres ou des manières d'avancer dans ta lecture pour pousser encore plus loin ta recherche. Et il faut savoir que ces enfants-là travaillent dur. C'est pas des enfants qui sont en train de faire des blocs Lego là, dans un coin. C'est des enfants qui développent vraiment beaucoup d'habiletés et qui travaillent beaucoup. Ils ont énormément de travaux à remettre. C'est différent dans la structure. C'est pas, vous avez un examen la semaine prochaine, il faut absolument que d'ici la semaine prochaine, vous ayez gobé au maximum tout ce que vous connaissez, là, que vous vous remplissiez le crâne de patente, que vous allez le vomir dans un examen, puis que vous espérez passer. C'est pas de même qu'on fonctionne.
C'est quelque chose qui revient par texto. Véronique, qui dit « Maman de deux enfants qui vont dans une garderie Montessori », je dirais aussi que c'est un style qui encourage l'autonomie. Le mot « autonomie » semble très important.
Qu'est-ce qu'on veut en société? On veut des gens autonomes. Ben, oui. Tu sais, on est les premiers à dire qu'à un moment donné, d'avoir des gens qui sont toujours au bras de l'État, qui sont, tu sais, qui veulent pas pouvoir continuer à avancer ou quoi que ce soit. On veut avoir des gens qui sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes, des gens qui sont capables de développer par eux-mêmes aussi des aptitudes pour continuer à pousser. Moi, c'est là l'intérêt que j'ai vu, c'est que j'ai un petit garçon qui aime travailler, un petit garçon qui aime lire, qui aime développer des choses. Puis je me dis, hey, si je suis capable de lui donner un environnement dans lequel personne va y mettre des bâtons des roues pour qu'il puisse continuer à avancer, pourquoi je le ferais pas?
Fait qu'il développe son potentiel, finalement.
Ben, 100%. Puis moi, ce que j'aime de cette philosophie-là, c'est qu'au bout de la ligne, c'est toujours dans le bien-être de l'enfant. Mais moi, c'est drôle parce que j'avais un peu le même préjugé que vous. Moi, ce que j'avais comme question quand je suis allé visiter, c'est, ben là, ils ont-tu des examens? T'sais, on veut-tu savoir comment ça va? La réponse,
oui, ils s'amusent pendant 6 ans.
Ouais, c'est quoi? C'est comment ça marche? T'sais, la réponse, c'est oui. Après ça, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait au secondaire? C'est ce que c'est bien beau l'envoyer au primaire dans une classe, parce que c'est complètement différent ce que tu développes une autonomie. Là, t'arrives au secondaire, c'est cordé avec des, ouais, avec des casiers, avec des petits cadenas, puis là, c'est à win en classe à 45, puis là, il y a un prof en avant avec un tableau qui essaie de se démener. Tu sais, c'est clairement différent. Bien, c'est des questions que j'avais, puis j'étais un peu comme inquiet à savoir ça. Puis là, bien, c'est là qu'on m'a parlé que généralement, quand tu fais la transition Montessori primaire vers secondaire, bien, là, tu considères peut-être des programmes d'études au secondaire qui sont plus intensifs, un sport-études, par exemple, ou des choses comme ça pour amener ton enfant dans un environnement qui est aussi challengeant, mais qui va le garder encore une fois connecté. Moi, honnêtement, je désire pas faire de mon garçon un homme. Je veux pas qu'il soit un scientifique de grande augure. Moi, je recherche pas à créer de lui un médecin neurologue. Ben, tu sais, je souhaite juste qu'il soit épanoui puis qu'il soit dans un milieu éducatif qui est respecté.
T'sais. Pour vous donner une idée, dans le monde, là, des écoles Montessori, on est à 15 763. Puis il y a beaucoup, beaucoup de textos qui entrent, ça me surprend. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous dit, moi, j'ai un enfant avec un TSA, avec douance et TDA. Il y a 8 ans, puis on parle de sûrement le faire monter plus rapidement dans les études parce qu'il s'emmerde en classe. T'sais, il a le temps de faire des dessins pendant la dictée. Ouais. Il est très, très fort. Ouais. Mais dans un système scolaire régulier, je vais l'appeler comme ça, c'est peut-être des choses qui sont moins possibles.
Les classes aussi, les classes sont mixtes. Tu sais, des classes que tu vas avoir, Montessori, puis là, de l'école qu'on parle, parce qu'à Québec, on a une école officiellement Montessori, qui est l'école à Sainte-Foy, qui est l'école Montessori de Québec. Puis cette école-là, tu sais, c'est des classes mixtes qu'on va avoir du première, deuxième, troisième année dans la même classe.
Hein. Mm. C'est classe... ça que tu veux dire par mixte, OK?
Oui, mixte, c'est pas juste sur le genre, c'est aussi juste en termes d'année. Donc, il y a des élèves de 3 niveaux ensemble dans le même groupe. Ça fait en sorte que, tu sais, tu as des enfants qui vont avoir justement de la capacité. Puis, tu sais, vous l'avez vu comme moi, la pyramide de la compréhension, là, de l'apprentissage. Quand tu es rendu au sommet de la pyramide, c'est que tu l'expliques à quelqu'un. Ce que tu as compris, tu es rendu capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Quand tu es rendu là, c'est que tu as vraiment une bonne compréhension, tu es vraiment dans une courbe d'apprentissage qui est très élevée. Fait que d'avoir des élèves qui sont de 3 cycles différents dans le même groupe, ça permet à des plus vieux d'aider des plus petits et vice-versa, des plus petits de voir des plus grands puis de voir un peu où est-ce qu'ils s'en vont également avec leur bottine. Fait que c'est un milieu d'apprentissage qui, moi, j'ai trouvé super inspirant.
Tu vois, je l'ai vécu, ça, moi, à l'école primaire. Je pense que c'est en secondaire, en troisième et quatrième année qu'on avait ça. Des troisièmes, t'es avec des quatrièmes années.
Oui, et
vice-versa.
Moi, j'ai fait ça aussi en cinq, sixième année.
Tu viens de me rappeler un souvenir de l'histoire d'apprendre à quelqu'un quelque chose que t'as déjà appris, puis on l'avait pratiqué, ça. Texto 88-971-101, on a une technicienne en éducation à l'enfance depuis 30 ans qui nous écoute et qui réagit, qui nous dit qu'en CPE, on a une approche bienveillante et à la hauteur de chaque enfant. L'étayage pour identifier le niveau de développement de l'enfant et lui donner les outils, l'accompagnement et le matériel éducatif pour se développer à leur rythme. Mais oui, on a des grilles de développement à suivre. Et oui, en CPE aussi, c'est de rendre les enfants autonomes l'objectif ultime. On les prépare pour le milieu scolaire et la bienveillance. C'est enfin une approche basée sur le respect de l'enfant. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de limites.
Exact.
C'est important d'en avoir et l'enfant se sent en sécurité d'avoir des règles et limites claires. Merci à Vicky.
Mais moi, c'est même que je l'ai compris aussi. Puis, tu sais, quand je regardais un peu les milieux, puis là, un moment donné, je voyais des enfants qui étaient des enfants de 3 ans, de mémoire, 3 ou 2 ans et demi, 3 ans, qui se levaient avec leur assiette pour aller mettre le restant de leur nourriture dans le compost, puis mettre l'assiette sur le bord de l'évier pour la faire laver. Là. Puis là, je me disais, tu sais, dans le fond, les gens qui disent, ouais, c'est des enfants qui, hein, c'est n'importe quoi, là, ils jouent, ils font rien. Non, t'as un peu, là, l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans, il prend son assiette lui-même, va la mettre au lave-vaisselle.
Je fais même pas ça encore.
Ben, tu sais, non, mais, tu sais, ça prouve juste aussi qu'à un moment donné, quand tu donnes l'autonomie, l'enfant trouve pas ça plate. Tu sais, c'est à toi, tu t'as devenu une tâche, puis t'es comme, va faire la vaisselle, c'est pas le fun. Mais si tu lui montres comment ça fonctionne, tu lui expliques les bienfaits de le faire.
La preuve, c'est que souvent, un enfant va avoir envie de passer le balai puis la mop.
Il y a des jouets. Il y a plein de jouets, là. C'est des balayeuses, des toutes petites balayeuses pour les enfants. Ils se promènent dans la maison, passe la fausse balayeuse. T'sais.
Ma mère a eu pendant 25 ans une garderie en milieu familial, puis sans même imposer quoi que ce soit, parce que tu n'imposes pas dans une garderie que les enfants torchent, là, c'est pas ça le principe.
Non.
Là.
Non.
Les enfants demandaient à ma mère les petits jouets de balayeuse puis de mop, parce que pour eux autres, c'était d'imiter les grands.
Oui.
Puis on oublie souvent que les enfants, c'est des éponges.
Oui.
Ils apprennent par mimique, ils apprennent en nous regardant aller. Fait que probablement que dans un milieu comme ça, justement, ça devient super intéressant, surtout s'ils sont mélangés.
Ben oui.
Ça leur permet d'adhérer à certaines capacités. T'as-tu changé ta façon d'éduquer ton gars à maison, sachant que t'allais l'envoyer là-bas?
C'est un excellent point, parce que quand j'ai eu la présentation, d'ailleurs, la directrice de l'école me fait très rire, parce qu'elle dit ça coûte moins cher envoyer ton enfant à Montessori que de te payer un pick-up. Fait que je trouvais ça quand même très drôle et très vrai. Mais ce qu'on a surtout appris lors de la visite et compagnie, c'est de se dire que c'est un travail qui se fait ensemble. T'sais, si à la maison, après ça, t'arrives puis tu donnes jamais l'accès à ton enfant d'être autonome, là. Tu le laisses, t'es toujours en train de faire pour lui ce qu'il demande, que tu lui donnes jamais les outils pour continuer à développer son autonomie, tu sais, que tu lui demandes pas, par exemple, j'en prends l'histoire de l'assiette, tu lui demandes pas d'aller le porter son assiette, tu sais, sur le bord de l'évier, puis tu continues à le laisser traîner sur la table et compagnie, ben là, il y a vraiment un manque qu'il va faire avec l'école, tu sais, ça serait tellement pas le même genre d'autonomie qui est projeté entre les deux milieux que clairement, il y a quelque chose qui marchera pas. Puis souvent, comme on dit, tu sais, moi au début, j'avais peur d'arriver dans un milieu où ça allait être, tu sais, la compétition, tu sais, vite, faut que l'enfant soit performant, on vise à performer. On veut que les flots, ça devienne, tu sais, tout des Einstein. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est juste de dire qu'on travaille l'école et le milieu ensemble. Et s'il y a cette relation-là, tous les enfants peuvent aller à Montessori. Tu sais, il y a pas de.
Le pire, Sam, là, c'est que t'enlèves Montessori puis parentalité bienveillante de notre langage 3 secondes, là. C'est la base, même quand t'envoies ton enfant en garderie.
Ben oui.
Dans le sens que...
Ben oui.
Moi, je me souviens, ma mère, elle avait des parents, puis les parents étaient comme, je comprends pas. Ici, mon enfant, il pleure pas, il est sage, il t'écoute. Mais non, moi, j'arrive à la maison, c'est un foutu bordel. Puis, ben oui, mais c'est parce que ça prend cette cohérence-là de milieu.
Ben oui.
L'enfant, il est pas épais, là. Sinon, lui, il fait un plus un,
ben
tu comprends, puis il reste encadré à la garderie, mais à la maison, c'est le party, là.
100%. Fait
que, de base, j'ai l'impression que... Ça devrait peut-être être ça.
T'sais, c'est niaiseux au point de mettre chez vous des petits racks pour mettre les manteaux, là, t'sais, de l'avoir à la hauteur de l'enfant. Moi, chez nous, j'ai installé ça au mur. Là, fait que là, mon kid, quand il rentre, il met son manteau tout seul sur son crochet. Là,
au mais lieu que tu y enlèves.
Ben, au lieu qu'il faut que j'y enlève et je le mette sur le crochet dans le garde-robe, c'est lui qui le dépose tout seul. T'sais. Ben, c'est l'autonomie. Je suis pas en train de d'inventer quelqu'un de surbrillant. Je suis en train de donner à quelqu'un des aptitudes minimales. Là.
Honnêtement, mes préjugés tombent peu à peu. Je trouve ça vraiment intéressant, par contre.
La technicienne en éducation qui nous écoute là, depuis 30 ans, fait que pas depuis hier, là, c'est ce qu'elle dit. Elle dit Montessori ou CPE, j'en vois pas de différence si c'est un bon CPE.
Oui.
Puis c'est un méchant bon point, ça.
Exact, exact. On dirait que c'est vrai que tu peux juste trouver un milieu qui fonctionne bien. T'as comme un gage de qualité, là.
Tu dis que tout est à la hauteur des enfants, mettons, dans les classes, puis que c'est mixte. Mais si on arrive au même résultat avec les enfants, c'est-à-dire de passer leurs examens du ministère, puis de faire les mêmes examens que dans le système régulier, comment ils apprennent au quotidien? Concrètement, est-ce qu'on t'a donné des exemples de... Tu sais, il faut qu'ils passent son français, ses maths.
Oui.
Tu sais, il y a des matières de base à passer,
oui.
Là. Fait que comment c'est enseigné si c'est pas un prof avec un tableau en avant?
Ben c'est des tâches. Ils vont comme répondre à des tâches que l'enseignant va donner selon où est-ce que l'enfant est rendu. T'sais, mettons, je vais prendre un exemple concret, c'est l'anglais. T'sais, mettons, pour apprendre l'anglais aussi, ça fait partie de l'éducation. Ils ont 2h30 de mémoire par semaine où il y a le professeur est simplement remplacé par un professeur d'anglais. Donc, les enfants continuent à faire qu'est-ce qu'il y avait dans leur plan de travail, donc qu'est-ce qu'ils devaient faire comme journée de travail à l'école, mais à place d'être par un professeur qui est francophone, c'est un professeur qui est anglophone pendant cette période-là. Fait que tous les fois qu'ils ont une interaction avec l'adulte, c'est en anglais. Puis ils commencent ça dès le primaire, dès le préscolaire. Là. Fait que ça commence très, très tôt. Fait que comme ça, ils ont de l'anglais qui est intégré chaque semaine dans leur éducation. Mais eux autres, mettons, vont avoir un plan de travail, ce qui fait en sorte que l'enfant A et l'enfant B n'auront pas nécessairement le même plan de travail. Mais au bout de la session, si tu veux, parlons en termes universitaires, mais au bout de la session, c'est le même genre de matériel minimum qui est appris. Il faut que les enfants aient continué à évoluer. Puis les enseignants sont justement là pour faire l'analyse, faire la rétrospection de l'enfant, savoir où est-ce qu'on est rendu puis vers où on s'en va avec lui, qu'est-ce qu'on peut pousser, qu'est-ce qu'on peut moins pousser. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, vraiment en tant que parent et non spécialiste Montessori, mais en tant que parent, j'ai trouvé que c'était vraiment bienveillant. J'ai trouvé que c'était super... C'était vraiment prendre considération de l'enfant sans non plus être dans un parc d'attractions puis se dire que tout est beau, tout est rose.
Bien, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, dans notre système d'éducation, ce qui revient souvent quand on parle d'actualité, c'est qu'on manque de ressources pour les enfants en difficulté.
Ouais.
On manque de ressources pour aider les jeunes, justement, qui auraient peut-être besoin d'un plan de travail, pour reprendre tes mots, différent. Mm. Tandis que dans le modèle Montessori, si je te suis, c'est que chaque enfant a un plan qui est vraiment adapté à lui.
Oui, oui. Puis moi, ce qui m'a fait capoter, tu parles d'enseignants puis de personnel, moi, ce qui m'a fait capoter ben raide, c'est quand je suis allé à l'école là-bas, les profs ont 35 ans d'expérience dans cette école-là, 37. C'est des gens qui ont fait leur carrière là, dans le fond. Les autres sont sortis de l'école, ont fait la formation Montessori puis sont allés s'installer là, puis ils ont travaillé là toute leur vie. Là. Le personnel, les directeurs, les enseignants. Moi, j'avais rarement vu un milieu point, là, milieu privé, milieu public, milieu whatever, là, avec des gens qui étaient là depuis aussi longtemps en aussi grande quantité. C'est ça, je trouve que ça prouve quelque chose. Ouais. Quand tu es un enseignant qui croit à cette philosophie-là, qui y adhère, ça veut dire que tu veux aussi bien la véhiculer puis tu veux amener des choses positives.
Les jeunes ont-ils des devoirs?
C'est différent. Ça va être des leçons, je pense, qu'ils appellent. Mais là, honnêtement, comme je vous dis, je suis pas prof. Fait que je sais pas comment ça fonctionne exactement, ce volet-là. Ce que j'ai su, c'est que c'est pas nécessairement un devoir fait ce soir 30 minutes de ça. T'sais. Ça va plus être, mettons, de voir des lectures à la maison. On va te faire amener des livres, on va te faire lire des choses, on va te faire travailler certains aspects que tu as développés toi-même. Mais comme je disais, à la fin de ça, est-ce que c'est un papier que, dans lequel on a rempli des choses qu'on remet au professeur? Ça, c'est dans la journée qu'on fait ça. Dans la journée, ils font des plans de travail, justement. Puis ils remettent des choses... C'est hallucinant, là. T'sais, j'ai vu des enfants faire des racines cubiques en sixième année, des enfants faire des présentations orales en anglais de 5 minutes devant l'école, des enfants lire et écrire en maternelle comme si c'est normal. Là, t'sais. C'est pas tous les enfants qui font ça naturellement. Là. Mais dans ce milieu-là, on dirait que ça se développe tellement bien. Puis encore une fois, c'est jamais dans la performance. C'est jamais mis comme étant... si tu fais pas ça, t'es un pas bon. C'est pas ça l'idée, c'est juste de dire « Voici tous les outils » pour que tu puisses te rendre à avoir cette compréhension-là.
Mais là, il y a une école à Québec, Montessori. C'est-tu contingenté? C'est-tu dur à rentrer là? Ça coûte cher?
C'est pas contingenté, mais il y a des listes d'attente. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu ailles faire la visite. Après ça, eux autres, je pense que, tu sais, dans l'idée, justement, d'adhérer à cette philosophie-là, il y a des rencontres aussi qui doivent être faites ensuite. Tu sais, il faut que tu ailles comme voir des conférences un peu sur c'est quoi le modèle Montessori. Tu ailles analyser une journée de classe, ça ressemble à quoi également. Je pense qu'ils font pas nécessairement. C'est pas contingenté plus que c'est bien filtré. Mm-hmm. Tu sais, on veut s'assurer à la fin que les gens qui choisissent Montessori adhère aussi. Il faut qu'en tant que famille, tu y adhères. Moi, j'ai une conjointe aussi qui travaille dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était naturel de suivre un peu ses recommandations. Là. Moi, je recommande des chars. Ma job dans la vie, c'est de recommander des chars. Ma blonde, elle me recommande des techniques d'éducation. Fait que, c'est sûr que j'ai comme fait, bon, ben OK, je vais y adhérer aussi. Puis c'est comme ça que j'ai eu de l'intérêt. Mais moi, au départ aussi, pour moi, c'était de l'inconnu. Je suis devenu parent. J'ai commencé à m'informer un peu. Mon garçon, il va dans un CPE. Il va pas dans un milieu Montessori actuellement. Mais pour son primaire, il devrait aller là, à moins d'un changement de plan, il devrait aller là, effectivement. Pour
puis le taux de réussite pour les sceptiques, mettons?
Bien, moi, je pense que le pourcentage clair n'est pas là, mais ce que j'ai compris entre les lignes, c'est que pas mal tout le monde passe quand c'est les examens du ministère et compagnie. Là. Fait que ça ressemble à ça.
Sam, C'était vraiment le fun.
Hey, on jase de d'autres choses que char.
Ben oui, c'est rare qu'on fait ça. Puis honnêtement, je trouve ça le fun. Est-ce que ça. Dernière question. Ça coûte cher?
Les plans de par année, c'est une affaire comme une couple de mille. C'est 4 ou 5 000 piastres par année. Là.
Fait que rendu là le privé ou ça, t'es un peu à
la
même place?
C'est, oui, exactement le même principe. Sauf qu'il n'y a pas de transport scolaire ni de service de garde. Donc tu ne payes pas ces frais-là. Fait que si t'enlèves ces deux frais-là, ça revient vraiment pas si pire que ça.
J'ai pas le choix de te dire que mon sac à préjugés est pas mal vide.
Ouais, ben...
C'est niaiseux, c'est de l'ignorance, hein? Mm. Quand tu connais pas ça, là, j'ai aussi... Moi, j'ai des amis qui me parlaient de Montessori, puis je voyais la façon dont ils éduquaient leurs enfants, puis c'est pas la façon probablement dont moi je l'aurais fait.
Ouais, c'est
peut-être
ça.
Peut-être que ça a contribué aux préjugés que j'avais aussi,
ouais.
Mais quand on parle d'autonomie, c'est ce qu'on veut au final dans la vie de nos enfants.
Ouais, puis offrir un milieu de qualité, moi, je pense que c'était ça la base aussi de ma réflexion, c'est d'offrir un lieu où est-ce que mon fils va se sentir bien puis dans lequel il va être capable d'évoluer comme il faut.
Je trouve ça le fun parce que les textos sont positifs aussi. Des fois, on aborde ce genre de sujet-là puis nous autres, dans le temps, on marchait pas de bottes pour aller à l'école en tempête.
Tu l'as dit, là, ça date de 1907. Là, c'est quand même dans le temps, le Montessori aussi.
Ah, vraiment?
Là, ça a fait sa preuve. Là.
Mais on a comme l'impression que relié à la parentalité bienveillante, c'est le nouveau phénomène des enfants à moi, puis c'est peut-être là qu'il faut pas croiser
moi,
les choses.
Moi, il y a des punitions chez nous. Je suis pas dans la parentalité bienveillante. Là, fait que ça,
ah, puis regarde, ce serait ton affaire.
Non, mais je fais pas partie du 4 sur 10. Là,
il est comme je veux juste rassurer.
Je veux juste rassurer. Non, non.
Sam, c'était le fun de jaser. D'autres choses que Charles.
Un vrai plaisir. Merci pour l'invitation.
Puis on se rejase assurément bientôt d'auto parce que ça reste ton domaine.
Yes!
Dans une belle journée.
Au retour, Pascal CV qui recommence ses petites chroniques chaque jour aux alentours de 11h35-11h40. Bien content de la retrouver à ce niveau-là. On fait aussi un petit tour des nouvelles. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Il est 11h32.
Le Point de Max. Environ confort et
88-971-1021, c'est de la pluie à Québec et ça va être ça pas mal toute la semaine. On a été assez gâtés dans les dernières semaines. C'est le temps de payer le prix, j'ai l'impression, parce que quand je regarde Environnement Canada, là, aujourd'hui, ça va rester de la pluie. Demain, c'est 40% de possibilité d'averse. Puis après ça, ben, c'est des averses jusqu'à au moins vendredi, puis même en fin de semaine. Ça va être nuageux, fait que tant mieux si on s'en sort pas de pluie, mais on n'aura pas ben de soleil non plus jusqu'à preuve du contraire. 88-971-1021, s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur les routes. Je vous rappelle que dans la dernière heure, on a appris que c'est Jakub Dobesch qui sera le gardien partant pour le Canadien ce soir après la piètre performance de Samuel Montembeau samedi face aux Rangers de New York. Canadien sabre dès 19h30. C'est pas le seul sport qu'on va avoir à TV à soir. Grosse soirée dans la NFL. Les Buccaneers de Tampa Bay qui visitent les Lions de Détroit dès 19h et plus tard en soirée. Mais Seahawks de Seattle qui reçoivent dès 22h les Texans de Houston. Sans oublier, dès 20h, le match numéro 7. Un match ultime entre les Blue Jays de Toronto et les Mariners de Seattle. Qui aura son billet pour la série mondiale, c'est ce soir qu'on le saura. Dans l'actualité, quelque chose qui retient beaucoup d'attention ce matin, c'est ce nouveau sondage Segma pour le compte de Radio-Canada et du Soleil. Où on se rend compte que Bruno Marchand est en train de tranquillement prendre une marche dans le parc vers une réélection. Il est complètement seul au sommet des intentions de vote avec 40%. C'est 24 points d'avance sur son plus proche poursuivant, qui est Stéphane Lachance de Respect Citoyen, qui, lui, passe devant Sam Hamad. Stéphane Lachance qui est à 16%, Sam Hamad à 14%. Claude Villeneuve qui reste dans ses eaux habituelles à 6%. Les appuis à Jackie Smith et Anne Guérette qui restent à un niveau assez marginal, c'est-à-dire 3 et 2%. 17% des électeurs sondés qui se disent toujours indécis. Et d'ailleurs, pour Sam Hamad, ce qui compte dans les chiffres, c'est vraiment le taux d'insatisfaction, c'est ce qu'il a mentionné ce matin en point de presse.
J'ai pas. Moi, le chiffre qui m'intéresse, là, c'est le taux d'insatisfaction, la volonté de changement. Ça, là, dans tous les sondages, c'est les chiffres qui comptent. Le taux de changement, le taux d'insatisfaction sont très élevés. Les gens veulent du changement. C'est clair. On n'a jamais eu ça dans la ville de Québec depuis longtemps. À partir de là, les gens regardent qui est capable de faire le changement et le taux de changement inclut le tramway. Pour ça, on répète encore une fois aujourd'hui, nous, on est la seule équipe capable d'arrêter le tramway de novembre.
Ben, selon la population, c'est pas vrai que c'est la seule équipe qui est capable de faire ça parce que, présentement, selon le sondage de ce matin, il y a plus d'appui pour Stéphane Lachance que pour Sam Ahmad. Mais pour M. Ahmad, c'est pas fini tant que c'est pas fini.
Les deux dernières semaines dans une élection, c'est là que ça se passe. Mois d'avril, mois de mai, là, pensez... Moi, le monde, mois d'avril, mois de mai, il y en a qui me demandaient s'il y avait une élection. Ils savaient pas. C'est pas, c'est, les gens, ils ont d'autres choses à faire. Vous autres, vous êtes là-dedans, là, mais eux, là, sont dans leur vie. Puis là, là, ils savent que l'élection s'en vient, il reste deux semaines. Deux semaines, c'est là que ça se décide, je vous le dis.
Pascal CV, pendant ton absence d'à peu près quoi, trois semaines sur le Kilimanjaro, t'en as manqué du stock de la politique municipale, hein?
J'ai passé mon week-end à rattraper ce que j'avais manqué, puis honnêtement, tout ce que je retiens, puis le résumé de ça, c'est chicane. Ouais. C'est la chicane qui a fait en sorte de ne pas élever les débats, mais surtout aussi de faire gagner un point de pour... Ben, un point, tu vois ce que je veux dire, un P majuscule là, de pourcentage pour Bruno Marchand, qui assurément va aller récolter un 20 de plus là, dans les prochaines semaines. C'est vrai, par contre, ce que M. Ahmad dit. Ça joue souvent dans les dernières semaines.
Mais là, ça, c'est parce qu'à un moment donné, Marchand est à 40 %, puis là, autour de 15, mettons, t'as Ahmad et Lachance. Ça prendrait... une catastrophe pour Bruno Marchand.
Ou encore de spectaculaires envolées lyriques avec des propositions très claires là, pour un mandat de la part de l'un et de l'autre. Ouais. Peut-être être un petit peu aussi concentré sur ces choses et non concentré sur les choses de l'autre. Ça me fascine. En fin de semaine, on est allé au tailgate de Boulevard 101 pour le Rouge et Or, puis il y avait assurément toute la gang, parce qu'ils étaient tous là, ou presque, de M. Ahmad, qui sont allés faire un tour. C'est normal, on est en campagne électorale. Si on ne l'est pas, ça ne veut pas dire que leur dimanche, ils passent au tailgate du Rouge et Or. Mais en parlant avec eux, on posait des questions, comme si on était en entrevue. Pourquoi donner autant de temps à cette chicane-là qui, au bout du compte, vaut rien? Ça vaut absolument rien. C'est pas pour ou contre un tramway. On débat pas du troisième lien. C'est qu'on chicane entre nous à savoir qui aurait le pouvoir si jamais on fusionne. Puis encore là, c'est des règles qui devraient être discutées, mais dans le décor. Oui, on devrait être au courant, mais ça mène à rien. Puis on challengeait un peu les attachés de presse en disant « Allez-vous lâcher le morceau puis vous concentrer ça sur la campagne? » Semble-t-il que oui. Mais ça a attiré l'attention de plusieurs jeunes. Hein. Je pense que le débat qu'on a livré à l'Université Laval la semaine dernière a fait réagir, parce que quand je suis retournée à ma voiture, je croisais beaucoup de jeunes qui jasaient du fait qu'il y avait des politiciens sur place au Rouge et Or, avec peut-être un peu de questionnement pour la suite des choses, mais surtout beaucoup d'engouement pour le match de football.
Et là, ce matin, justement, Sam Ahmad et Leadership Québec, les réponses que je vous ai faites entendre, c'est Mathias qui est allé sur le terrain, qui était présent pour la conférence de presse, mais ensuite les questions des journalistes. Mais à la base,
il y avait du contenu.
Il y avait une annonce. Puis là, les questions sont allées ailleurs, là, mais il y avait une vraie annonce.
Oui, il y avait une annonce. En fait, souvent, on réagit pour l'équipe de M. Ahmad sur des choses qui existent déjà. C'est un peu le cas, là. En ce moment, on a parlé, en fait, des pistes cyclables, des corridors cyclables, tiens, vivacité. Ça a été mis en place par l'administration Marchand, vous le savez, dont celui sur le boulevard Pierre-Lelièvre. Et là, on a annoncé du côté de Sam Ahmad, chef de Leadership Québec, qu'on va mettre la fin à la guerre à l'auto. Donc, c'est mettre les mots dans la bouche de Bruno Marchand pour la guerre à l'auto. Puis c'est aussi dire, ben nous autres, on va aller dans un autre axe. Ce qu'on veut faire, c'est revoir la mobilité, entre autres, sur le boulevard Père-Lelièvre, surtout au travers des secteurs de Duberger, Les Saules et de Vanier. Donc, il y avait un corridor vivacité qui a été aménagé là, et sans amputer pour certains, là, c'est ce qui clame, en fait, que le boulevard est passé d'une voie de circulation automobile. Donc, ça oblige plusieurs interdictions de virage à droite au feu rouge qui ont été instaurées pour assurer la sécurité des cyclistes. Et ça ne fait pas l'unanimité. Puis clairement, on veut s'attaquer un peu à ce qui a été mis en place par Marchand, et qui est plus facile à aller chercher de l'adhérence de la part du citoyen. Hein? Piste cyclable, quand tu parles de ça, c'est pas tout le monde, ça divise à Québec. On est allé un petit peu marteler là-dessus.
C'est que les votes de pro-piste cyclable et pro-vélo...
sont déjà gagnés par Bruno Marchand.
Exact, sont toutes de l'autre bord. Oui. Si c'est pas Bruno Marchand, c'est peut-être Claude Villeneuve, limite, ou Jackie Smith. Alors que toi, les votes que tu veux aller chercher, ben c'est sûr que, bon, soit t'as déjà des intentions, soit ceux de Stéphane Lachance. Fait qu'on est vraiment dans cette dispute-là pour ces votes-là en particulier.
Exact. Sinon, je veux te parler de quelque chose qui va faire réagir, c'est sûr. Ça vient de sortir dans les médias. On parle de rénovation de logement. Si vous êtes en logement, vous êtes locataire. On dit qu'on va avoir un changement assez important. Un nouveau règlement, en fait, qui va permettre aux propriétaires d'aller donner la facture, du moins une partie des coûts d'entretien ou de rénovation, directement aux locataires dans une augmentation annuelle. Ça se passait pas comme ça. Il fallait vraiment prouver qu'on avait fait des améliorations et encore, il y avait un pourcentage maximal qu'on pouvait faire en sorte d'appliquer sur le nouveau bail là, ou le renouvellement. Là, on vient d'alourdir davantage le fardeau des ménages. Vous êtes déjà étranglés, on le sait, là, par les loyers exorbitants. Ça a beaucoup monté dans les dernières années. On s'en va jouer là-dedans. Pourquoi? Bien, c'est un regroupement, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec qui ont demandé tout ça. C'est un projet de règlement. Ça a été publié dans la Gazette du Québec. Là, je ne parle pas d'Harry Potter, c'est vraiment la Gazette du Québec. Le 3 septembre prochain, ça a un peu passé dans le beurre, mais on prévoit des changements dans la méthode de fixation des prix des loyers. On veut vraiment inclure certains travaux, notamment le maintien d'intégrité du bâtiment, l'amélioration ou la modernisation des lieux. C'est large, Maxime.
Ben, ce qui est
pas bon...
Est-ce
que d'ajouter une plante dans l'entrée va permettre de facturer plus aux locataires? T'sais, c'est des choses qu'on regarde.
Ben, puis à la base, c'est bon pour... aucun locataire, cette histoire-là, parce que n'importe quoi qui peut faire monter le prix des logements, ben ça fait monter en bout de ligne le prix de tous les logements.
On comprend que c'est pour une pérennité du parc immobilier québécois. Il y a des logements qui sont laissés à l'abandon, pas juste par les locataires, mais aussi des fois par des propriétaires qui les entretiennent pas, qui font pas tout ce qu'il faut en fait pour que l'immeuble soit même encore conforme. Mmh. On essayait d'aller viser ces gens-là, cette problématique-là, parce qu'il y en a certains qui voulaient pas mettre l'argent dans cette amélioration de logement en se disant « ben, je vais monter mon loyer puis je vais perdre mes locataires, je peux pas faire ça ». C'est complexe en ce moment ce qui se passe sur le marché immobilier, puis ça ajoute encore une fois une bonne brique là, à ceux qui en ont par-dessus les épaules là, de dépenser, puis de voir à chaque année, quand le salaire ne suit pas nécessairement, des dépenses de plus. Il y a peut-être ça que je voudrais terminer en fait l'intervention avec ce dossier-là. Je sais que ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.
Je l'ai vu passer en fin de semaine, la vidéo originale. Oh, là, c'est.
J'étais pas sûre de vouloir cliquer, Max.
Je vais le dire, là, c'était de la curiosité malsaine, carrément, de cliquer puis de regarder la vidéo du début à la fin puis de regarder ça puis de me dire, voyons, je suis vraiment en train de voir ça?
Moi, c'est le fait de vouloir voir on est rendu où dans certaines violences qu'on peut... observé chez les enfants. Là.
Ah, puis tu dis rendu, d'après moi, c'est quand même quelque chose qui a toujours existé, par exemple.
Bien, quand tu sondes là, les gens, puis tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a des gens qui disent « la bataille, ça a toujours existé, l'intimidation, ça a toujours existé, on essaie d'amenuiser ça, on essaie d'avoir des conséquences qu'il n'y avait pas auparavant, mais ça reste qu'il y aura toujours du taxage, tu sais, on appelait ça de même aussi dans le temps. » Mais là, moi, j'ai cliqué sur cette vidéo-là puis j'ai pas voulu mettre le son au départ. Peut-être que ceux qui sont un peu plus sensibles à ça devraient pas écouter le prochain segment, mais voici ce qui a été livré sur les réseaux sociaux en fin de semaine.
On voit le kid se faire brasser.
Ils sont au moins trois autour d'un enfant qui se fait brasser, qui se fait insulter. Plusieurs ont l'air plus vieux que lui.
À genoux!
Ils le mettent par terre, crachent sur lui.
Ah, c'est terrible. Puis, tu sais, avant, peut-être qu'on les voyait pas, ces images-là d'intimidation. Là, si je comprends bien, c'est une mère qui a publié ça sur les réseaux sociaux, une vidéo qui, à la base, a été publiée par les kids sur Snapchat.
Oui, c'est 3 minutes où on montre la victime qui subit des coups, des bousculades, des insultes verbales, des crachats. Il a été traîné au sol par le capuchon de son manteau. À un moment donné, il sert de sa capuche pour se protéger le visage. On y enlève pour lui donner des coups. Puis on voit qu'à un moment donné, il a été projeté par terre puis il reste par terre. On dirait qu'il veut pas attiser quoi que ce soit. T'sais. Il y a un moment où il y a des échanges verbaux qui se font, ça alimente. Il y en a qui ont l'air plus vieux, comme on disait, mais il faut savoir que ça a été diffusé puis ça fait beaucoup réagir. Puis la mère, oui, a mis ça sur ses propres comptes de réseaux sociaux. Puis ça s'est... ça a commencé à faire comme une traînée de poudre. Il y a 2 suspects mineurs qui ont été arrêtés. À la suite de cette diffusion-là, ça montre cette agression. C'est un élève du primaire, c'est plusieurs jeunes. C'est du côté du Saguenay, dans un parc municipal du secteur Kenogami. Et ça vient qu'à faire en sorte que beaucoup de gens se posent des questions, parce qu'on rappelle que tous les jeunes de 12 à 17 ans doivent répondre de leurs actes, même s'ils commettent certains crimes qui habituellement sont jugés plus sévères à l'âge adulte. Mais à trait de voie de fait là, ou de menace, c'est la même même chose. On juge les jeunes, même s'ils sont mineurs. Donc, c'est une vidéo d'événement qui va circuler encore sur les réseaux sociaux parce que même si on demande de cesser de la partager, elle est partie sur le web.
Merci beaucoup, Pascal. Demain, as-tu hâte à demain midi? C'est un gros événement à Boulevard, le débat des candidats à la mairie de Lévis dans On en jase. Course à la mairie de Lévis, une vraie de vraie. Ça fait un bout qu'on n'a pas vu ça parce que Gilles Lehoulier était bien en place.
C'est l'air Lehoulier avec une appréciation quand même à fort pourcentage. Oui. Puis c'est un homme qui n'était pas piqué des verres. Il y avait un peu la façon Régis Labeaume de régner. Beaucoup de caractère. Puis ça va se passer comme ça se fait depuis quelques années sous mon joug.
Et demain, donc, midi, dans On en jase à Boulevard 102.1, débat entre Serge Bonin de Repensons Lévis, Isabelle Demers de Lévis Force 10, Isabelle Demers qui est la dauphine de Gilles Lehoulier, et l'ancien député fédéral conservateur Stephen Blainey également, qui vont se prononcer sur plusieurs enjeux, plusieurs thèmes, le développement de Lévis, que ce soit économique, infrastructure, logement, la mobilité, la qualité de vie, les finances publiques.
Ouais.
Demain, donc, midi, sur les ondes de Boulevard 102.1.
Puis tout est interrelié. Hein? Rive-Sud, Rive-Nord, ça a toujours été important de voir ce qui va se passer l'autre bord, mais encore plus pour les prochaines années.
Hey, ça fait passer, j'ai l'extrait pas loin. As-tu pogné Régis Labeaume à Tout le monde en parle hier?
C'est mon dossier dans l'émission du midi. J'ai trouvé ça très bon.
Régis Labeaume, entre autres, qui a parlé du temps où il était un bully à Québec.
Non, mais au début, j'étais énervé. Moi, je bougonnais. Puis en même temps, c'est à Québec, on avait Radio Poubelle. Là. Vous rappelez pas de ça? Là. C'était un jour à Québec. Les gens... souviens de ce que j'ai dit, mais ils ne se souviennent pas ce que mes adversaires ont dit, puis comment ça se vivait à Québec, la radio poubelle.
Ouais.
Tu sais, 14 ans de ça, là, je peux dire une affaire, faut être fort.
Mais ça vous manque un peu quand même.
Pas du tout.
Merci beaucoup, Pascal. On t'écoute ce midi.
Ça me fait plaisir.